Bien, bonjour à toutes et à tous. On va donc commencer cette table ronde. Vous savez qu'on a un rythme, c'est une table ronde par mois, des thèmes les plus divers. On essaie toujours d'avoir des croisements les plus hybridés possibles. Vous aurez un exemple cet après-midi, je crois encore, de regards très croisés sur ce thème. Je vais d'ailleurs demander à M. Collomb de bien vouloir prendre place, puisque c'est lui qui va ouvrir la séance d'une certaine façon, de façon souterraine. Voilà. Vous avez un micro qui vous attend. Donc vous avez le programme de la table ronde au recto et au verso vous avez la suite des opérations. Donc il y a des tables rondes, il y a des journées d'automne et il y a aussi des visites dans les entreprises. Je le dis pour le petit groupe d'étudiants de philo, je crois les identifier comme ça, de Poitiers. N'hésitez pas, on peut organiser une rencontre dans cette entreprise, d'autant que le chef d'entreprise est très ouvert à ces questions de philosophie et autres. Et on a même envie d'organiser une journée dans son entreprise sur le monde intellectuel dans l'entreprise. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut être intéressant à voir et à rencontrer. Donc Monsieur Collomb, bah, je vous laisse la parole pour quelques minutes.
Voilà, donc tout d'abord, je vais me présenter, donc Olivier Collomb. Donc moi, je suis le président du comité départemental de spéléologie des Deux-Sèvres, donc un organisme déconcentré de la Fédération française de spéléologie. Et donc on est amené à gérer toute l'activité spéléologique dans le département. Par l'intermédiaire des clubs qui, eux, travaillent au niveau local. Il y en a trois dans les Deux-Sèvres, un à Mel, un à Niort et un à Saint-Mexant-l'École. Donc la spéléo, c'est justement le monde de l'obscurité par définition, puisque c'est sous terre. Donc c'est vraiment dans le thème d'aujourd'hui, la nuit, et aussi ce que ça impacte, c'est-à-dire tout ce qui est perte de repères visuels, temporels. Parce que quand on est sous terre, on n'a plus de repères de la journée, du temps qui s'écoule. Donc si on n'a pas une montre avec soi, on ne sait pas combien de temps on a passé. Et on a aussi une autre perte de repères, c'est la perte de repères dans l'espace, puisqu'on n'a pas de repères d'orientation. Donc si on n'a pas un compas avec soi ou une topographie, au bout du troisième virage, on ne sait plus si on est vers le nord, vers le sud. Donc on a une perte de repères qui est totale. Et quand on progresse pendant plusieurs heures dans une cavité, on observe un autre sens. Quand on ressort, c'est l'odorat. Puisqu'il y a très peu d'influence sur les odeurs dans le milieu souterrain. Les seules influences, c'est ce qui peut être ramené par l'eau. Et quand on ressort, alors c'est plus frais en été, on reprend conscience de toutes les odeurs des végétaux, des plantes, de tout ce qu'il peut y avoir. Et c'est là où on s'aperçoit quand on ressort qu'on a été immergé dans un autre monde où on était ailleurs. Et cette perte de repères étant totale, il y a une histoire véridique qui illustre bien ça dans une exploration qui a été faite dans les Pyrénées, à la Pierre Saint-Martin. Il y a des explorateurs qui ont progressé dans une cavité qu'ils découvraient, donc ils faisaient la première topographie de la cavité au fur et à mesure qu'ils progressaient. Et ils sont arrivés à un moment donné comme sur une montagne, tellement immense que leurs éclairages n'éclairaient ni les côtés, ni le fond, ni le plafond. Donc ils se sont dit, ça fait quand même longtemps qu'on progresse, on a dû faire une traversée, on doit être sorti quelque part sur la montagne, et maintenant on reste à savoir où. Et quelqu'un dans le groupe avait une montre, ils ont regardé l'heure, il était 18h, c'était en plein mois d'août, donc au mois d'août à 18h, il fait jour, et en fait ils avaient découvert la salle de l'Averna, qui est la plus grande salle souterraine d'Europe, qui fait plusieurs centaines de mètres d'envergure dans les trois dimensions. Donc voilà, ça illustre l'autre monde, et on peut aussi avoir une autre dimension qui est la dimension acoustique. Puisque quand on est sous terre, on peut se dire sous terre, il n'y a pas de bruit. C'est pas forcément vrai. Ça peut être extrêmement bruyant si c'est des cavités souterraines aquatiques, type rivière souterraine, où la moindre chute d'eau, ne serait-ce que de 50 ou 60 cm, produit un vacarme absolument épouvantable parce que ça résonne dans ce milieu qui est confiné. Ou au contraire, sur des cavités sèches, là justement on n'a pas de bruit, mais tellement pas de bruit que ça en devient même angoissant pour des personnes qui ne sont pas habituées, parce que justement il n'y a pas de bruit de fond, il y a zéro bruit et zéro lumière. Donc on est vraiment immergé dans un monde à part. Donc si vous avez des questions sur... sur l'aspélologie, sur les influences de ce milieu-là, je suis prêt à répondre à vos sollicitations.
Alors voilà. Et en même temps, je vous demande simplement de donner votre nom, parce qu'on enregistre tout. Donc comme ça, on sait qui parle.
Bonjour, Hugues Wattebled. J'aimerais vous demander si vous étiez déjà resté plus d'une journée sous terre. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vécu personnellement cette absence d'alternance entre le jour et la nuit ?
Alors, moi, personnellement, non. Je dirais malheureusement, puisque c'est une expérience qu'on aimerait vivre en tant que spéléologue. Mais étant fortement contraint par mon activité professionnelle par ailleurs, puisque je suis bénévole, hein, c'est très difficile de faire des séjours prolongés où on va bivouaquer sous terre, mais c'est en même temps très intéressant de le faire et quelquefois indispensable dans certaines progressions où les cavités sont tellement importantes qu'on ne peut pas faire l'aller-retour dans la journée, où il faut installer des bivouacs. Donc c'est toute une gestion et une logistique en même temps, hein, puisqu'il faut être complètement autonome. Et le milieu souterrain est aussi un milieu fragile. Et il n'est pas question d'impacter le milieu souterrain par des bivouacs. Donc tout ce que l'on va amener sous terre a vocation à ressortir dans son intégralité. Donc ça implique des grosses équipes, une grosse demande de main-d'œuvre. Et c'est pour ça que c'est fait que sur des grosses opérations.
D'autres questions ? En attendant d'autres questions, moi je vous en pose une, mais prenez le temps d'y répondre après. Prenons les questions d'abord. Du point de vue de la Nouvelle-Aquitaine, qui est notre territoire régional, est-ce qu'on a une richesse de ce point de vue-là en termes d'aspect souterrain ? Voilà, je vous laisse, si à moins qu'il y ait d'autres questions aussi. Oui, vous ? Alors il va vous laisser répondre et puis après il prendra la place. D'accord. Allez-y.
Alors la richesse, ça a été dans le cadre de la région Nouvelle-Aquitaine qui s'est mise en place. La Fédération française de spéléologie a des organes déconcentrés qui sont les comités régionaux, les comités départementaux. Donc on avait des comités régionaux avant la Nouvelle-Aquitaine. On a dû donc travailler sur cette problématique pour fusionner les comités régionaux pour en avoir plus qu'un, qui est maintenant le comité spéléologique régional Nouvelle-Aquitaine. Et ça a permis, en regroupant les entités, d'avoir des échanges avec l'ensemble des spéléos, qui n'échangeaient pas forcément autant avant, puisque chacun faisait son assemblée générale de comité régional dans son coin, mais il n'y avait pas forcément d'interaction. Et maintenant, on se rencontre tous au niveau des assemblées générales. Par contre, ça implique une difficulté majeure. Comme la région Nouvelle-Aquitaine est quand même très étendue, ça implique des problématiques de déplacement et de coûts de déplacement qui sont un frein aux rencontres. Et on peut même parler de freins importants.
C'est un constat un peu général, mais c'est intéressant que vous le fassiez aussi. Et peut-être en prolongation, est-ce que, puisqu'on peut dire que la spéléo, c'est dans les sports de nature, est-ce qu'il y a, du point de vue de la région, une prise en compte de cette dimension, de ce phénomène, et sous quelle forme ?
Alors, c'est effectivement un sport qui rentre dans le cadre des sports de nature. Alors au niveau sport, on est quand même dans un sport qui est particulier, puisque c'est à la fois sportif mais pas que, et c'est surtout un sport qui est sans compétition. Donc il n'y a pas de représentant olympique de la spéléo, il n'y a aucune compétition dans le monde de la spéléo, Et au niveau sport de nature, ça impacte aussi donc, l'aspect environnemental, qui est bien sûr pris en compte par les spéléos. Et au niveau du comité départemental de spéléo des Deux-Sèvres cette année, on a répondu à un appel à projet de l'agence de l'eau Adour-Garonne sur la biodiversité, où on va faire une action de comptage des espèces cavernicoles et une présentation au public, puisque le milieu souterrain n'est pas forcément connu pour son aspect environnemental. Et c'est quelque chose qui est méconnu du public, alors que c'est aussi très révélateur de l'activité humaine en surface. Les pollutions qui sont en surface, elles sont immédiatement dans les eaux souterraines, avec un impact sur la faune cavernicole. Donc là, on va participer à cet appel à projet par un comptage des espèces cavernicoles sur les trois rivières souterraines majeures du département. Hein, la rivière souterraine de Bataillé sur la commune d'Alouanais, celle de Saint-Christophe-sur-Roc, entre Saint-Christophe-sur-Roc et La Chapelle-Bâton, puisque c'est une traversée, et sur la commune de Chandonnier. Et après, les résultats de ces comptages seront présentés en exposition publique.
D'accord. Merci pour ces précisions. Vous aviez... Merci.
Votre nom, c'est Clément, de l'association Passage. Je voulais savoir, dans l'alpinisme, au-delà des péripéties pour de la pratique, il y a un lieu clé qui est le sommet, souvent, où il s'agit d'aller au sommet. Et, c'est une sorte de, dans la pratique, c'est un moment particulier. Est-ce qu'il y a un équivalent, un analogue dans la spéléo, qui est un peu spatialement un peu l'inverse de la pratique de l'alpinisme, puisque à défaut de monter, on descend.
Oui, alors là, du coup, on touche vraiment le côté sportif de la spéléologie. Pour ceux qui font de la spéléologie, ce qu'on appelle la spéléologie verticale, c'est-à-dire les puits, il y a des aspects comme faire la plus grande verticale d'une seule traite d'un département ou faire un puits profond. Alors, dans les Deux-Sèvres, ce n'est pas tellement vrai, puisque les réseaux qu'on a sont entre 30 et 50 mètres pour vraiment les plus profonds, et vraiment accessibles qu'à quelques spécialistes. Mais sur d'autres départements, notamment dans le Lot ou dans le département des Pyrénées, on a des cavités qui sont extrêmement profondes. Hein. La Pierre Saint-Martin, c'est plus de 1000 mètres. De puits qui s'enchaînent. Donc là, on a une dimension vraiment sportive.
D'accord. Bon, de toute façon, vous restez parmi nous, Monsieur Collomb, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Mais sinon, je...
S'il y a d'autres questions, sinon...
Oui, on pourrait les prendre, de toute façon, au fur et à mesure du déroulé de la table ronde. Merci, en tout cas.
Merci.
Et j'appelle donc Jean-Olivier Mercier à venir prendre sa place. Responsable de la compagnie Plein Vent à Chauvigny. Alors sur Chauvigny, on a un travail assez particulier aussi, hein, puisque vous savez qu'on travaille dans les territoires, et notamment avec une entreprise qui s'appelle Lingerie Indiscrète, et un travail de tout autour. Et ça, si vous avez des questions, Céline est là pour vous répondre à ces questions territoriales, si j'ose dire. Mais monsieur Mercier, allez-y. Et en quoi vous êtes concerné par la nuit, vous ?
Alors, en quoi je suis concerné par la nuit ? Déjà parce que souvent le spectacle se passe de nuit. Et là, avec la compagnie, j'ai créé trois soirées en fait, que j'ai dénommées les nuits insolites pour essayer, voilà, c'est quelque chose que j'essaye avec la compagnie, de changer un petit peu le rapport entre les spectateurs et les artistes sur scène pour en essayant un peu de casser certains codes qu'on a habituellement. Et c'est vrai que je cherche à rendre aussi les spectateurs actifs, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas juste passifs, assis dans leur fauteuil, mais voilà, dans mon travail, je veux qu'ils puissent participer aussi à l'œuvre qui est en train de se jouer et se créer devant eux. Donc pour ça, donc ça a commencé sur un spectacle l'été dernier qui s'appelait Les Vampires de l'Aurore, où on était sur un spectacle de plein air qui commençait avant la tombée de la nuit et qui ensuite nous amenait à déambuler dans les rues de Chauvigny, à travers les châteaux, de nuit. Donc forcément, on sentait l'ambiance qui change, l'atmosphère, pour les spectateurs, mais aussi pour les comédiens. Et c'est vrai que ça permet de créer une connivence. C'est vrai qu'on se rend compte que en pleine nuit, on a une attention des spectateurs qui est différente aussi, on se rassemble. La portée, on a l'impression souvent quand on joue aussi que la portée de nos voix, de notre jeu, elle est plus restreinte et s'adresse à un groupe plus fermé. Et ça, c'est vrai que ça, en tant que comédien, ça change. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans une salle de spectacle, voilà, qui est un espace clos, noir. Et du coup, on sait vraiment à qui on s'adresse. Et voilà, c'est la différence de jouer sur une place de marché où il y a de l'activité, où ça bouge. Donc voilà, un petit peu le travail. Donc sur ces nuits insolites, là, on avait plusieurs spectacles. Donc on est commencé par un concert des musiques des Balkans, mais en essayant de changer un petit peu les espaces, c'est-à-dire que c'était les spectateurs qui étaient sur scène et le groupe dans la salle, vraiment au milieu des spectateurs. Ensuite, on a fait une enquête théâtrale. Donc ça, c'était pour montrer un petit peu toutes les coulisses aussi d'un théâtre ou d'un lieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache ? Parce que c'est vrai que souvent, quand on est spectateur, on vient, on voit ce que l'on veut bien nous montrer, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Donc là, c'était ma volonté de casser un peu ces espaces et d'amener les spectateurs à être actifs, parce que c'était une enquête, donc c'était autour d'Hamlet de Shakespeare. Donc les spectateurs devaient interroger les acteurs et les personnages de la pièce, et ils avaient le droit de déambuler où ils voulaient dans tout le théâtre. Et le dernier spectacle qu'on a joué la semaine dernière, qui s'appelait Le Bouche à Oreille, était un cabaret dégustation, où là, j'ai voulu aussi mettre en valeur sur ce projet-là des producteurs locaux, étant donné qu'on parlait de nourriture dans ce spectacle, donc c'était des textes, des chansons autour de la gastronomie, et je trouvais ça dommage d'en parler et de pas pouvoir goûter. Donc du coup, j'avais demandé à des producteurs locaux de venir faire goûter, ainsi que des restaurateurs qui avaient des petits défis pour préparer des plats aux spectateurs. Donc voilà un petit peu le travail qui a été fait avec la compagnie sur ces nuits, pour savoir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est vrai que le monde culturel est présent la nuit, et c'est à une place importante, parce que je pense que les spectateurs sont aussi disponibles à ces heures-là pour découvrir, pour décompresser de leur journée de travail. Et c'est une autre relation aussi entre les spectateurs et les artistes qui, eux, travaillent de nuit.
Bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des suggestions ? Oui.
Oui, donc Olivier Collomb. Quand les acteurs, les spectateurs, deviennent acteurs, quelque part, en interrogeant justement ceux qui sont censés regarder dans un cadre classique, est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu au début perturbés par la situation, où justement ils ne sont plus dans la simple situation de spectateurs assis, où ils deviennent justement acteurs ?
Alors, effectivement, c'est vrai que ça peut déstabiliser, mais j'essaye toujours dans mes mises en scène de le faire de manière à ce que ça ne soit pas dérangeant forcément pour le spectateur. Je déteste aller dans un spectacle et être pris à témoin. Donc, je ne veux pas faire subir ça au spectateur. Non, mais j'essaye de... C'est surtout... C'est pas tant de devoir... Je ne leur demande pas de jouer. Je leur demande de réfléchir et de prendre position. Par exemple, dans un des derniers spectacles, il y avait deux visions qui s'opposaient de l'histoire, et les spectateurs avaient le choix de voir la pièce avec une vision très cartésienne de l'histoire et une, et une vision plus mystique. Et donc, ils choisissaient où ils voulaient aller. Et du coup, ils ne voyaient plus le même spectacle selon les choix qu'ils faisaient. Donc, c'est plus en ça que je cherche une place pour le spectateur. Mais je respecte aussi le spectateur qui veut être juste spectateur et qui est là pour se divertir, regarder un spectacle et qui n'a pas envie de participer.
Oui, bonjour, Hugo Atteblède. Justement, dans le, vous avez posé une alternative entre cartésienne et mystique. Et les spectateurs, pour la pièce que vous présentez, et les spectateurs, ils avaient tendance à choisir quelle voie, la voie cartésienne ou la voie mystique ?
Plus mystique. Ouais, c'était celle qui tentait le plus. Alors pourtant, j'essayais le cartésienne, j'essayais d'avoir mis un personnage plein d'humour, donc ça compensait un peu, mais c'est vrai que... On se rend compte que les gens, bah, ils aiment tout ce qui est mystère, intrigue, et surtout là dans ce spectacle donc, qui traitait d'un certain conte Vlad, qui parlait des vampires. On sent que les gens, la nuit aussi, ils aiment se faire peur. Et c'est voilà, c'est ce que je cherchais, c'était de se dire, bah, oui, on prend plaisir à aller dans un train fantôme. On sait que c'est faux. Mais ça fait toujours du bien de se faire des petites frayeurs. Donc c'est ces sensations-là aussi que j'essaye de donner aux spectateurs et qu'il y ait plusieurs sens qui soient en éveil, quoi. Et comme là dans le café, dans le cabaret dégustation sur la gastronomie, ben c'est-à-dire que voilà, ben c'est pas parce qu'on vient voir une pièce de théâtre qu'on a qu'un ou deux sens qui sont en éveil et on peut en mettre aussi d'autres en action, quoi.
Oui.
Et pour rebondir un peu et pour parler à proprement parler de la nuit, finalement la pièce mystique c'est la pièce de la nuit, dans le sens où vous parlez des trains fantômes, des vampires, la proposition du coup, les deux propositions que vous faisiez sur vos pièces de théâtre, et est-ce que c'est pas finalement proposer soit on s'oriente dans la nuit noire, soit avec Descartes nous prend la main et il nous emmène dans le jour. Comment, et la question du coup qui viendrait, ce serait qu'est-ce que la nuit apporte au théâtre de plus que le jour ? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous et qu'est-ce que...
La nuit permet, enfin, pour moi, dans la nuit ou l'obscurité, sur un plateau, on a la chance de pouvoir la choisir. C'est-à-dire qu'avec les projecteurs, on va mettre en lumière telle partie ou telle partie. Donc forcément, on va pouvoir guider nous, le spectateur, comme s'il y avait une caméra, en lui disant ben, « Essaye de regarder plus par là, c'est là où j'ai envie de délivrer un message. » Et justement, par rapport à ces deux visions, ben, on, dans la partie qui était plus mystique, on était dans quelque chose de beaucoup plus intime et réduit. Enfin, je veux dire, on n'a pas du tout le même rapport, mais même à la voix, au jeu, ben, c'est vrai que la partie cartésienne était beaucoup plus très volubile, il y avait quelque chose où on jouait très large, et la partie mystique qui était beaucoup plus centrée, on va dire. Et effectivement, du coup, les messages ne sont pas du tout les mêmes qu'on passe d'un côté ou de l'autre. Et souvent, des pièces ne pourraient... Enfin... Une pièce de théâtre, quelle qu'elle soit, n'aurait pas du tout le même impact, je pense, si on la jouait en plein jour, ou comme par exemple quand on est en répétition, où on a les lumières, les services qu'on appelle, donc les lumières de répétition, qui sont des néons. Ben, on n'a pas du tout la même émotion que lorsqu'on passe ensuite en vraie lumière de scène. Et ça, c'est intéressant de se rendre compte, ben, comme l'ambiance de la lumière, de la nuit, de l'obscurité, change complètement le rapport à l'œuvre.
Moi, j'ai Charles-André Mangenet. J'ai une question un peu dans le même genre de celle qui vous a été posée. Mais moi, j'aimerais bien voir si on peut distinguer justement la nuit et l'obscurité, en fait. C'est-à-dire que précisément, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de jouer le soir ou de jouer la journée ? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux choses-là ? Parce qu'on peut très bien imaginer, par exemple, jouer à midi, en plein midi, par exemple, mais dans l'obscurité. Est-ce qu'on a la même sensation en faisant ça qu'en jouant le soir lorsqu'il fait vraiment nuit, en fait. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Vous voyez, parce que ça permettrait de distinguer un peu, justement,
c'est vrai qu'il y a...
nuit et obscurité.
Oui, il y a nuit et obscurité. C'est vrai que quand on joue, par exemple, en ce qu'on appelle en matinée, qui est 15 heures, pour les artistes, c'est une matinée. on a ce moment de décalage. C'est vrai qu'on est en loge, il fait jour, la concentration n'est pas la même. Et c'est souvent plus dur pour se mettre en route. Après, une fois qu'on rentre dans l'espace vraiment scénique, le corps oublie, enfin, on retombe dans cette atmosphère qui nous est connue. Et du coup, on retrouve nos marques habituelles, que ce soit en journée ou en nuit. Mais c'est vrai que, de toute façon, quand on joue une pièce, il y a un espace-temps qui est un peu... c'est un petit décrochage. Donc, sur le temps de la représentation, on ne se rend pas compte, je pense quand on est dans une grotte, on ne se rend pas compte de l'heure qu'il est, forcément. Mais c'est plus pour la préparation où ça change, oui.
Donc, Eric Chapelle. Moi, je voulais... du coup, deux choses. Donc, la première, revenir un tout petit peu en arrière sur la question précédente qui était sur les jeux de lumière. Donc, effectivement, la lumière va jouer sur le fait de la perception du public, mais en mettant le curseur vraiment à fond, on éteint totalement les lumières, et là, c'est notre perception aussi sonore qui va changer, où des détails sonores vont se révéler parce qu'ils vont être parasités par la vision. Voilà. Donc c'est pas une question, c'était plus
Ça voilà. c'est des expériences. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à un spectacle de Renaud Cogeau qui s'appelait Sniper, et toute la pièce était dans le noir absolu, et du coup le spectateur fait le travail, et c'est ça qui est très très intéressant, c'est que on se rend compte que par ce parti pris qui avait été fait, on n'aurait jamais pu faire sur scène tout ce que le spectateur a fait lui dans sa tête. Alors c'était un texte en plus assez dur sur la guerre des Balkans, et du coup c'était une des plus belles mises en scène au final, alors qu'il n'y avait rien, juste la voix et l'imaginaire du spectateur. Et du coup, voilà, pour revenir à la question, la lumière change aussi le lien du spectateur, quoi.
Et maintenant, pour venir à la question précédente, sur la perception obscurité et nuit, bien sûr, il y a le stimuli de lumière qui va être là, qui va nous dire il fait sombre, il fait lumineux, mais il y a aussi notre corps, en fait, avec des charges d'hormones qui sont réglées, en fait, sur 24 heures, qui peuvent se dérégler, mais pour se dérégler, il faut du temps. Et qui va faire que notre corps, qui est rythmé à un certain rythme, va reconnaître que c'est l'après-midi, le matin, le soir. Et donc, même qu'on soit plongé dans l'obscurité ou dans la nuit, l'organisme va lui aussi savoir, même si je ne vois pas le jour, normalement, mon corps est calé le jour. Donc, effectivement, sur les perceptions, ça va changer. Enfin, voilà, après, je ne suis pas dans le domaine médical, mais voilà, de ce que je peux apporter, il y a cet aspect-là.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Et au passage, précisément, puisque l'idée, c'est de donner la parole un peu à des gens dans la salle, peut-être nous dire quelques mots sur « au passage », c'est quoi? C'est parce que l'association...
Bonjour, Anaïs Dubourg-Bataille. Je suis présidente de l'association des étudiants de philosophie qui s'appelle Passage. Donc on organise souvent des projections de films à l'université, ou avec des débats philosophiques, etc. Et en ce moment, on est en train de monter un projet avec un artiste poitevin qui s'appelle Florian de la Salle. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est céramiste. Et on va organiser un vernissage à l'université l'année prochaine, octobre prochain, et sûrement publier un livre.
Merci pour ces précisions. C'était l'occasion. Bien. S'il n'y a pas d'autres remarques, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose au tout du théâtre. Si, une question encore, on a le droit.
Quand
vous faisiez la distinction entre le, enfin, vous avez dit qu'il y avait des publics qui ont choisi plutôt la dimension mystique que la dimension cartésienne. Est-ce que justement, c'est pas aussi que l'obscurité dans la nuit, justement, et par rapport aux stimuli qui sont là, pour, stimuli visuels qui sont amoindris ou un capteur photo effectivement capterait moins d'informations puisqu'il y a moins de lumière. Est-ce que justement ça, puisque la nuit on ne fait pas que moins voir, il semble que aussi ça met en branle l'imagination, puisque à défaut de voir, on se force quand même à voir, et le défaut, enfin, si on pouvait dire le défaut d'information nous force à informer d'autant plus. Est-ce que ça jouerait pas justement sur le choix qui a été fait, sur l'intérêt qu'il peut y avoir aussi à jouer dans l'obscurité pour forcer le public plus qu'à un niveau perceptif, mais à un niveau de l'imagination, quoi, à forcer un développement de leur imagination et de l'imaginaire.
Ouais, ben c'est sûr, oui, qu'on s'en amuse et on se sert de ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout utiliser les mêmes ficelles pour faire passer des messages. Et autant sur une partie, on va devoir être beaucoup plus dans quelque chose de plus descriptif au niveau du texte. Autant sur la partie qui va être plus intime, plus on va se servir plus d'autres sensations. C'est-à-dire que on va se servir plus sur des aspects visuels, sur des bruits, sur des voilà, et quelque chose qui va peut-être être moins direct, plus évoqué et jouer sur ça pour vraiment faire travailler sur les ressentis et les sensations du corps, quoi. Ben oui, parce que ça ouvre du coup tout le champ de l'imaginaire, et c'est ça qui est très intéressant. Mais c'est un peu là, c'est aussi la base du théâtre, c'est-à-dire que dans le théâtre, on sait très bien que Jules César ne se fait pas assassiner à la fin dans la pièce, mais on va mettre les spectateurs dans un état où on va partir du choix que tout le monde croit qu'il meurt à la fin, même si tout le monde sait qu'à la fin il va se lever et saluer. Mais voilà, c'est donner au spectateur cette place et lui faire son travail d'imaginaire aussi dedans, quoi.
Bien, merci Monsieur Mercier.
Merci.
Vous restez parmi nous. Hein. Voilà. Et donc j'appelle Chloé Lebaille, qui est directrice adjointe du collectif Culture Barbare, Fédération nationale des cafés culture, donc elle nous présentera aussi tout ça, mais c'est surtout au titre de la plateforme de la vie nocturne. Parce qu'au fond, parfois on a tendance à, comment dirais-je, ironiser sur certaines dénominations. Je me rappelle, lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en 81, il y a eu une création du ministère du temps libre. Alors ça faisait beaucoup rire et beaucoup jaser, mais en même temps, bon, vous me direz, du temps libre, il s'en est créé depuis aussi, avec le taux de chômage qu'on a eu, mais en même temps, cette notion de temps libre, elle était vraiment un peu prémonitrice. Donc vous, la plateforme de la vie nocturne, c'est aussi, d'une certaine façon, on en parlait tout à l'heure, ça débouche parfois sur des politiques publiques locales sur la nuit ou sur la vie nocturne. Mais je vous laisse en parler.
C'est ça, c'est le temps libre et libéré qui est devenu le temps de la nuit. Donc nous, la plateforme de la vie nocturne, elle est assez jeune, elle a un an et demi. Et elle regroupe, c'est un espace de réflexion, d'échange et de coproduction. Donc elle regroupe et des villes comme Paris, Nantes, bientôt Toulouse d'ailleurs, on parle de tout à l'heure, Saint-Nazaire aussi, et des fédérations d'élus. Donc on a la Fédération nationale des collectivités à la culture, le Forum européen pour la sécurité urbaine. On a aussi donc des professionnels de la nuit, donc beaucoup de cafés, des établissements de nuit, des scènes de musique actuelle aussi sur le volet culturel. Et on a beaucoup d'associations qui travaillent sur la réduction des risques, sur la prévention, sur la santé. On va avoir aussi une association nationale de riverains et également des alcooliers avec un groupe d'alcooliers français assez renommé. Et donc voilà, tout ce petit monde a choisi de se retrouver pour évoquer ces questions de la nuit, parce que ça a été un peu dit avant par les différentes personnes, mais voilà, aujourd'hui on est passé à un temps de nos vies humaines qui se passe aussi la nuit, alors que ça pouvait ne pas être le cas il y a plusieurs dizaines, vingtaines d'années. Aujourd'hui, on est vraiment sur des activités humaines qui ont dépassé le jour et qui se font sur la nuit et qu'on commence juste à appréhender. On a parlé beaucoup de culture, mais il y a également aussi beaucoup de gens qui travaillent la nuit, qui sont... qui travaillent dans des hôpitaux, qui travaillent dans des services publics notamment, mais pas que, dans des industries, quand vous faites les 3-8, 2-8. Il y a beaucoup d'activités. En termes de chiffres, juste des chiffres locaux, mais par exemple à Nantes, c'est un travailleur sur 5 qui travaille la nuit. Donc du coup, ça pose beaucoup de questions sur ces activités qui ont débordé. Et ce que vous évoquiez en introduction, on s'autorise aussi à s'épanouir la nuit et pas que dormir, et vraiment à développer aussi d'autres activités et d'autres habitudes. Après, aujourd'hui, dans le conscient, donc c'est ça un petit peu le diagnostic de la plateforme, dans le conscient un peu collectif et le conscient... politique avec un grand P sur l'ensemble des politiques publiques, on assimile aujourd'hui beaucoup la nuit à des choses négatives et notamment donc des changements de comportement un peu brutaux, individuels ou collectifs, tout de suite assimilés à des questions de délinquance, tout de suite assimilés à des questions de sécurité. Et on a beaucoup ça, en tout cas, dans le conscient collectif et dans un peu le discours politique. Et si bien que les politiques publiques qui s'étaient appropriées ces questions de nuit étaient restées sur ces questions d'ordre de sécurité et de sécuritaire. Et là, l'idée pour nous, c'est vraiment de faire évoluer cette vision-là et cette approche-là, et justement d'aller sur une vision, sur une prospective, parce que, mine de rien, l'histoire de la nuit, en tout cas, cette évolution dans notre civilisation, ça a vraiment permis à de nombreux chercheurs, nombreux experts de développer d'autres activités et de que ça soit aussi donc un temps d'émancipation pour l'homme avec un grand H. Donc aujourd'hui, pour nous, on a envie d'aborder la nuit sur ce prisme-là, que c'est un véritable enjeu sociétal, parce que aujourd'hui la nuit peut être mal comprise. Il y a souvent des zones de tension la nuit qu'il y a moins le jour. Je parlais de comportements qui changent, mais on peut avoir un comportement le jour, de salarié qui va travailler dans sa boîte, etc. Et puis dès qu'il est 19h, dès qu'il fait nuit, en fait, toute une autre personne, diverse et variée, mais bon, c'est intéressant à appréhender. Il y a plein de questions qui se posent, donc ces questions de tension, et donc c'est également aussi une question de politique. Donc au sens des politiques publiques, je parlais de sécurité aujourd'hui, mais la nuit, donc, elle va impacter la vie de travailleurs, elle va impacter la nuit de mobilité, des questions de transport la nuit. Lorsqu'on parle d'un travailleur, l'exemple type que j'évoquais tout à l'heure en aparté, c'est par exemple la maman qui est en situation monoparentale, qui est infirmière de nuit. Qu'est-ce qu'a fait son enfant la nuit quand elle n'a pas de possibilité familiale ou autre, il y a la question de la crèche, des crèches, etc. Enfin, on est sur ces questions-là en termes de politique publique. On va être sur aussi les questions touristiques, parce que beaucoup de villes aujourd'hui, et françaises, et européennes, en ont fait vraiment un atout, en tout cas, et un levier économique pour leur territoire. On va être aussi sur ces questions économiques et sur ces questions donc de développement culturel. Donc nous, on est parti sur ces questions-là, où aujourd'hui, il faut un petit peu développer une vision de la nuit, parce qu'on est déjà en train de gérer des états... un peu des situations d'urgence sur les villes, parce que ça pose aussi la question de l'aménagement de l'espace public. Autre exemple, par exemple, lorsqu'on parle d'hyperalcoolisation, et notamment au niveau de la jeune, enfin la jeune ou moins jeune, mais en tout cas au niveau de la nouvelle génération qui a une autre pratique vis-à-vis de la consommation d'alcool, donc avec le phénomène du binge drinking, où vous consommez dans l'espace public, espace privé, espace public, au lieu de consommer beaucoup plus dans les établissements, ça pose aussi la question de l'aménagement de l'espace public. Donc l'idée, c'est vraiment de faire travailler sur ces questions de nuit des urbanistes, des économistes, des travailleurs sociaux qui travaillent sur la question des usages de la nuit, parce que la nuit, c'est pas simplement que des fêtards, voilà, c'est aussi des travailleurs, c'est des personnes qui sont issues dans le milieu culturel, et donc il y a différents usages, et aujourd'hui c'est ce qu'on veut appréhender, et ce qu'on trouve très intéressant, notamment en termes de recherche et de politique publique, c'est que comme c'est un espace un peu nouveau dans le conscient des politiques publiques qu'il faut aménager et structurer, on peut se permettre justement toute une expérimentation, une innovation qu'on ne fait plus, en tout cas, enfin, après ça c'est un avis personnel, mais sur les politiques de jour, parce que voilà, globalement aujourd'hui on est vraiment dans de la gestion et on s'autorise plus justement à penser, à aller vers une utopie. Et donc du coup l'idée, nous, de la plateforme de la vie nocturne qui regroupe et ses décideurs publics et donc des acteurs et des professionnels, voilà, c'est d'arriver à se nourrir ensemble, et aussi des chercheurs et des scientifiques pour justement, bon, le constat on l'a posé, mais maintenant c'est comment, voilà, on voit le développement de la nuit en France et en Europe, et vraiment dans une vision émancipatrice des choses, quoi.
Avant de poser aux questions, deux pistes comme ça que vous pourrez peut-être explorer. Est-ce que pour les territoires, au fond, et les villes, on entend souvent dire que pour des villes qui veulent être des villes capitales, je pense à Paris, mais on pourrait prendre Bordeaux pour notre cas de figure, il faut affirmer qu'il y a une nuit bordelaise, une nuit parisienne. Alors je sais bien que c'est pas à confondre avec les travailleurs de nuit, mais ça veut dire, voilà, est-ce que ça fait pas partie du marketing territorial que d'avoir une nuit ? Est-ce qu'à Chauvigny, il y a une politique de la nuit ? Je vous laisserai répondre. Voilà. Et puis la deuxième chose, au fond, c'est des indicateurs, tout ça, de créativité. Hein. Vous connaissez les thèses de Richard Florida, Charles Landry, au fond. Si les territoires et les grandes métropoles ont des politiques, et la politique de la nuit peut en être une, on verra arriver toute une classe créative qui va développer la ville, etc. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir à ça, mais on peut procéder à des questions aussi, ou des remarques, ou bien vous continuez là-dessus. Vous voulez ?
Et donc, j'aurais voulu savoir s'il y avait actuellement des lois propres à la nuit qui permettent de justement cadrer, peut-être trop cadrer d'après votre avis, les pratiques des noctambules. Donc, ma question, c'est plus précisément comment la politique appréhende la nuit ? Voilà.
Je laisse toutes les questions. Bah, okay. Ouais. Nous,
merci. Bon, bonjour, Toussaint Dorsane. C'est une question normale et qui rejoint un petit peu la vôtre. La nuit et le jour, contraste visuel, contraste du temps, etc. Mais contraste également entre les humains. La nuit, pour beaucoup, et en général c'est comme ça, beaucoup c'est pour se reposer. La nuit, pour d'autres, c'est pour travailler, il n'y a pas de problème. Et il y en a d'autres où c'est pour s'amuser. Et il y a des réactions qui sont parfois très violentes. Et pour des communautés, pour des communes, ce n'est pas évident à gérer. Quand vous avez des campings qui voudraient être allumés jusqu'à 2h, 3h du matin, le voisinage dit non, moi je veux dormir. Et un tas de choses comme ça. Oui. Alors il y a un contraste qui est là, pas facile à gérer, et source de conflits très, très fréquents. Ça pourrait aller très loin, mais je m'arrête là.
Source de conflit qui remonte à la mairie. Enfin, tu connais bien le sujet. Voilà. C'est pas, ça. Pas qu'à la mairie. Allez-y, alors.
Du coup, je vais commencer par cette question-là, parce que c'est le sujet, c'est la question des cohabitations et des différentes aspirations individuelles, voilà, entre ceux qui dorment, ceux qui travaillent et ceux qui font la fête, pour résumer en trois grandes catégories. Et après, aujourd'hui, c'est comment la puissance publique, elle gère ça. parce que c'est aussi son devoir. Donc nous, on essaye un petit peu d'imaginer des solutions pour faire vivre ces différentes cohabitations et que aussi les personnes se connaissent plus dans leurs aspirations, parce qu'on voit bien aussi qu'il y a des méconnaissances entre eux. Ceux qui veulent dormir, ceux qui veulent faire la fête. Enfin, voilà, faut qu'on trouve un petit peu l'équilibre et justement qu'on arrive à ce que tout le monde puisse avoir des pratiques qui respectent l'autre en fait dans ses aspirations et dans ses volontés. Mais c'est très compliqué comme sujet, parce que donc la question est soit on réglemente et si on réglemente trop, et ben forcément il y a des aspirations qui se font moins. Donc nous, aujourd'hui, avec la plateforme et là, après, avec le collectif Culture Barbare dans lequel je travaille, on est vraiment en train de gérer ça. On appelle ça, on fait de la dentelle, voilà, gérer problème par problème, territoire par territoire. On va être beaucoup donc, sur des conflits d'usage, mais donc sur des conflits de voisinage, où on est dans une société qui a tendance à se... Chaque problème est judiciarisé, donc tout de suite... pour des petites, enfin au début voilà une méconnaissance et frustration on va dire de l'un ou de l'autre côté, ça prend des proportions qui peuvent aller très loin jusqu'à de la fermeture d'établissements, parce qu'aujourd'hui voilà la loi elle réglemente beaucoup au niveau des entreprises, donc les entreprises qui vont être les établissements de nuit ou enfin l'ensemble des organisateurs de spectacles en fait, qui génèrent des nuisances lorsqu'ils travaillent la nuit, mais qui ont le droit de gérer des nuisances dans un autre cadre qui est la question du code de la santé publique notamment et de la tranquillité publique. Donc vous avez le droit de faire du bruit avec tant de décibels, dans ce cas-là il faut des limiteurs sonores, enfin, en tout cas qui gèrent la norme sonore dans vos établissements. Donc on est aujourd'hui la loi elle est là, et de l'autre côté on a des donc c'est les riverains qui se plaignent en premier et qui aujourd'hui ont un vrai pouvoir en fait de pouvoir fermer en fait soit des établissements ou arrêter des festivals pour des lieux de théâtre ou autres pour nuisances sonores. Donc là nous on est en train de travailler sur une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur une loi qui viendra inscrire le principe d'antériorité des lieux des établissements culturels et touristiques. C'est-à-dire si demain il y a quelqu'un qui vient habiter au-dessus d'une salle de spectacle, elle sait en connaissance de cause qu'elle va habiter au-dessus d'un établissement qui génère des nuisances et qui a le droit de le faire dans une certaine limite. Et ça, on pense qu'avec cette possibilité-là, ça va pouvoir désarmer plein de conflits et le fait que, parce que par exemple, on a quand même beaucoup plus de problèmes sur des grandes villes, mais quoique après sur des toutes petites villes, ça existe aussi, et pas que concernant donc les établissements, enfin café, salle de spectacle, restaurant. On a vu, enfin moi j'habite à Saint-Nazaire et près des petites villes à côté de chez moi, et les voisins ont fait fermer la boulangerie parce qu'ils en avaient marre qu'ils entendent du bruit à 5 du mat. Chez moi j'ai une poissonnerie sur le port, elle a été fermée parce que les voisins du dessus étaient gênés par les odeurs et à force de porter plainte la poissonnière est partie. Enfin bon, vous avez déjà vu dans la presse ces conflits avec le coq, vous allez habiter en pleine campagne et vous portez plainte parce que le coq vous dérange, ou les vaches, j'ai vu qu'il y a un agriculteur là qui a eu une plainte pour ses vaches. Enfin bon, on est rendu aussi dans cet excès d'individualisation des rapports qui est un peu un problème global au niveau de notre société, mais en tout cas au niveau de la nuit, ça va beaucoup plus loin parce que on est encore aussi, je le disais tout à l'heure, sur cette appréhension nuit égale problème. Donc je m'autorise à avoir ce type de comportement, quoi.
On va supprimer même les cloches.
Oui, c'est ça, oui. Ouais. Non. Donc nous après on essaye de comment on retrouve un équilibre, et en tout cas la puissance publique au niveau des villes et même de l'État, et même aussi au niveau de l'Europe, parce que les problèmes qu'on a en France c'est les mêmes à Barcelone, c'est les mêmes à Berlin, c'est les mêmes à Londres, en plus dans une question un peu tourisme mondialisé où aujourd'hui avec le low cost vous partez pour pour Barcelone pour 40 euros, alors que pour aller à Paris, il faut 80 euros en train, plus, je ne sais plus combien c'est ici. Et donc, voilà, on a des villes qui sont là-dedans. Donc, ça me fait aller sur votre dernière question, où justement, les villes assez grandes comme bon, Paris, Bordeaux ou même Lille vont être dans une compétition un petit peu... de la nuit avec Lille va être en compétition avec Bruxelles, Paris va être complètement en compétition avec voilà, Berlin, Barcelone, parce que bah, vous pouvez aller passer la soirée voilà, pour 30, enfin, on va dire 70 euros aller-retour. Donc oui, les villes aujourd'hui, pour certaines, ont pris le parti justement de miser là-dessus, sur la nuit en termes d'attractivité, en termes de secteur économique, parce que c'est un secteur économique. Et pour aussi faire le lien avec ce que tu disais, ah non, c'est vous qui disiez tout à l'heure sur cette question donc de la créativité. Nous, on a vu qu'en tout cas, les personnes qui ont racheté, beaucoup de gens ont racheté des cafés ou fait des établissements de nuit dans de l'ancien patrimoine industriel, par exemple, ont réhabilité des vieux commerces. On en fait, enfin, on a plein de, on a, à Paris, on a le café Charbon, voilà, qui était sur la question du charbon, qui est un café historique du 11e arrondissement. On va avoir aujourd'hui, voilà, beaucoup de cafés qui réhabilitent donc des anciennes usines, et donc souvent sur notamment les villes moyennes, ça a été facteur, parce que les lieux sont quand même des lieux de lien social, de rencontres intergénérationnelles, etc. Et donc on recrée de la vie dans des lieux où il n'y avait plus rien, et où voilà, c'était des villes dortoirs ou autres, et c'est aussi tout le phénomène voilà, avec les start-up, tout ça, où ça recrée de la vie, les Fab Labs, voilà. Où un café, un lieu de vie, un lieu de nuit va venir recréer tout un environnement sur un quartier. Et voilà, après, ça devient un quartier à la mode. Donc après, vous voulez habiter. Donc après aussi, les loyers augmentent. Et c'est voilà, les bobos qui viennent habiter dans le quartier. Et puis, bah, qui se rendent compte au bout de 15 jours que le week-end, bah, y a du bruit du jeudi au samedi. Il y a plein d'étudiants qui viennent, etc. Du coup, ça les empêche de dormir. Du coup, ils portent plainte. Du coup, le café, il ferme. Et donc après, ça se redéplace sur un autre quartier. Ça recommence. Et nous, après, voilà, on va essayer, voilà, face à tout ce constat-là, donc on n'est pas les seuls à porter, c'est pour ça, c'est le but, nous, de la plateforme qui est historique aujourd'hui comme plateforme d'échange, parce que voilà, ceux qui sont autour de la table, il y a on peut aller jusqu'à du réel changement institutionnel. En tout cas, faire des lois. Là, on travaille sur des lois. Voilà, c'est l'idée, c'est de un peu redonner de l'équilibre à ce qui se passe aujourd'hui, quoi.
Jean-Olivier Mercier. Je pense qu'il y a aussi un problème de crédibilité, c'est que, enfin, on le voit bien même dans les métiers de la culture, où je pense dans le milieu de la nuit aussi, où on se dit, ben, est-ce que c'est vraiment utile pour la société? On se dit, bon, ben, c'est un loisir. On ne se rend pas compte de la place que ça a et on ne donne pas de la crédibilité. Voilà, par exemple, combien de fois on me dit « Et ton vrai métier, c'est quoi ?» Ou voilà, je pense, quelqu'un qui a un établissement de nuit, un bar, on va se dire « Bon, il est là juste pour faire la fête. » On ne se rend pas compte que c'est un métier et que ça génère aussi de l'emploi, Et je pense que par rapport aux plaintes, ça joue aussi, parce qu'on se dit qu'on n'en a pas besoin dans le quartier de ce bar en bas. Ça ne fait que des nuisances, alors que non, effectivement.
Complètement. Après, c'est voilà, la question du fantasme, parce que la nuit, tout est possible, en fait. Donc, et pour beaucoup de personnes... Quand on est travailleur de nuit, c'est complètement autre chose. Quand il y a un établissement de nuit, c'est se coucher à 8h du matin, se lever à 15h. Si vous avez une vie de famille, je ne vous en parle même pas. Enfin, vous n'en avez pas, même. Vous êtes vite décalé. Et après, les personnes qu'on croise la nuit, ce que je disais tout à l'heure, on a l'exemple type de la personne costard cravate... très sérieuse, qui va à son travail, qui bosse à fond, 60 heures semaine, etc. Et puis dès que ça va être l'after work, maintenant, c'est pas en vrille. Tout tout nu dans la rue. Et non, mais c'est ça qui est assez, assez paradoxal, en fait, nous, qu'on travaille beaucoup là-dessus, sur le fantasme et le paradoxe. Et comme tout est possible, aussi bien pour la personne qui se lâche que pour le voisin qui va être pas content et qui est dans des comportements exacerbés, d'harcèlement. Enfin, nous, on a des exemples assez nombreux où le voisin, ça prend des proportions pour, après, du cas par cas, où on a réglé avec des établissements qui ont juste payé un double vitrage. Du coup, voilà, il y avait moins de bruit. On a des établissements, parce que le voisin se plaignait de bruit de talons sur l'allée, en fait. Donc, on a mis un tapis, enfin, ce genre de choses. Mais à Paris, dans le 11e arrondissement, on a des riverains qui sont très compliqués. Et quand il y a eu les attentats... de toute façon, j'ai vu le truc gros comme une maison, mais voilà, leur discours public, ça a été de dire s'il n'y avait pas eu de bar, il n'y aurait pas eu d'attentat, quoi. Donc on est dans des discussions après avec eux qui sont très très complexes pour des gens qui ont des appartements à plus d'un million d'euros, qui sont à la retraite et qui peuvent, s'ils veulent du calme, bah, qu'ils partent.
Alors, peut-être justement, comment est-ce qu'on fait appel à vous ? C'est-à-dire, si à Chauvigny, la ville de Chauvigny veut mettre en place une politique de la nuit, elle vous téléphone, vous lui servez de conseil, ou vous avez des chercheurs qui viennent les aider ?
Alors, nous, on aime beaucoup, là, donc c'est un peu un principe à la mode, mais nous, ça fait longtemps qu'on travaille avec cette philosophie d'action, c'est le principe d'horizontalité, donc avec l'ensemble des membres de la plateforme, où voilà, chacun va apporter son expertise de son prisme, pour avoir cette vision globale. Et ben donc on accompagne les villes justement sur la mise en place de politiques publiques de vie nocturne, voilà, enfin diagnostic, mise en œuvre et surtout voilà, évaluation. Et on va faire intervenir voilà, des intervenants multiples qui viennent avec leur savoir-faire, en fait. Et donc là, on le fait sur plusieurs villes en France, toutes tendances politiques confondues, parce que ça y est, je pense qu'il y a une prise de conscience. Là, on va être, par exemple, sur Saint-Nazaire. Là, après, on a la ville de Paris, la ville de Nantes, mais on va être sur des villes. On avait commencé à travailler avec la ville de Montreuil. On va avoir d'autres villes de taille moyenne que je n'ai pas le droit de dire encore, mais voilà, sur des villes de 60 000 habitants aussi. Donc, mais Chauvigny, il n'y a pas de problème. Si... Il y a un bar, oui.
Partie du réseau barbare.
C'est ça.
Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres suggestions ? En tous les cas, vous êtes sur Paris, de toute façon, on peut vous contacter.
Oui,
vous avez un site internet ?
On est sur toute la France. Voilà. Le site, ça va être pnvn.org. Et on est partout.
Ok. Partout. Bien. Eh bien, Hugues Wattebled, et Charles-André Vangenet, si vous voulez bien venir à la tribune. Nous parler d'opium, en tout bien tout honneur, évidemment. Vous allez nous expliquer ce qu'est opium. C'est pas un parfum. Donc je vous laisse vous présenter.
Bonjour. Alors, je me présente, je vais commencer à parler en fait. Je suis Hugues Wattebled, rédacteur en chef de la revue numéro 6 d'Opium Philosophie, donc qui porte sur la nuit.
On va la faire circuler, si vous voulez.
Oui, allez-y. Je vais même avoir besoin d'un exemplaire, puisque je vais. Peut-être l'exemplaire que j'avais donné à Madame Le Bay. Comme ça, je vais pouvoir lire les textes de nos étudiants, puisque c'est une revue donc étudiante de philosophie qui réunit des textes d'étudiants venus de toute l'Europe, puisqu'on a des textes de France, mais aussi d'Angleterre et d'Italie. Donc Opium Philosophie, peut-être pour représenter les choses de façon claire. C'est une association interuniversitaire qui est basée à Paris et qui réunit principalement les étudiants de Sciences Po Paris, les étudiants de l'École normale supérieure de Paris et de Sorbonne, c'est-à-dire Paris 1, Panthéon-Sorbonne et Paris-Sorbonne Université. Donc l'objectif d'Opium Philosophie est de promouvoir la philosophie hors les murs de l'université pour ce faire, on organise plusieurs types de, pas d'animation, mais d'événements, notamment les synesthésies, qui sont des projections cinéma accompagnées d'interventions de la part de penseurs ou d'écrivains à propos du film, qui se passe donc chaque année au cinéma Christine 21. Mais aussi des cours de philosophie dans les prisons avec l'association Genepi, ainsi que dans les écoles primaires. Donc en fait, Opium Philosophie est divisé en plusieurs pôles. Donc le pôle événement, le pôle synesthésie, on a aussi une radio Opium, qui s'appelle Radio Opium, oui. Mais l'événement phare de l'année pour Opium Philosophie, c'est la publication donc de sa revue, une revue qui porte sur un thème à chaque année insolite. Donc le premier était en 2012 sur le thème du voyage. Je l'ai pas là parce qu'il est en rupture de stock, on les a tous vendus. Par contre, je peux vous montrer les autres. Donc le deuxième numéro portait sur la nourriture, donc dont le titre est « Se nourrir au XXIe siècle ». Donc il lance un peu des problématiques de la nourriture, un thème assez peu étudié en philosophie, qui amène les étudiants à utiliser les outils qu'ils développent à l'université ou alors en dehors de l'université, qu'ils ont développé dans leur formation d'étudiants, pour traiter d'un thème insolite. Donc, par exemple, la troisième, bon, je passe en revue, c'est le cas de le dire, les thèmes, le jeu, puis la ville, les projections l'année dernière, voilà, et cette année, la nuit. Donc, moi, je suis rédacteur en chef de du dernier numéro, puisque chaque année, le comité de rédaction étudiants changent et donc sont amenés à participer au sein de cette revue tous les étudiants européens, même du monde, qui peuvent nous envoyer un texte à partir de l'appel à contribution qu'on lance chaque année au mois de novembre avec un thème défini par le comité de rédaction. Peut-être pour entrer dans le vif de la nuit, dans la nuit, dans ce qu'elle a de plus obscur, mais en tentant d'y jeter des lumières les plus intelligibles possibles, je vais vous raconter l'histoire de la revue succinctement, c'est-à-dire l'histoire de notre projet associatif qui a débuté pour moi et pour toute mon équipe en octobre 2017, où on a décidé de traiter de la nuit avec tout un engouement au début, en se disant en philosophie finalement, après donc pour moi c'est 6 ans d'études de la philosophie, je n'ai jamais été confronté à ce thème là précisément parce qu'il n'a pas été étudié par les philosophes, étudié oui, thématisé non, c'est à dire qu'on n'en a pas fait une œuvre ou un sujet propre à la philosophie, si ce n'est un livre qui a été publié l'année dernière par Michael Fussell qui s'appelle La nuit, vivre comme témoin ou sans témoin, publié chez Autrement, je pense. On a une interview de lui dans notre revue. Donc on a eu beaucoup d'engouement au début. On s'est dit super, un très beau sujet qui mêle qui nous fait nous projeter par la pensée dans l'obscurité de la nuit. Mais cet engouement s'est vite accompagné d'une crainte que les étudiants ne puissent pas... une crainte qui s'est avérée fausse, hein, je vous rassure, ne puissent pas traiter vraiment de la nuit dans ce qu'elle a de spécifique et soient perdus finalement dans le monde de la nuit, que la pensée ne puisse pas s'adapter à la nuit. Et donc nous avons eu peur de ne pas recevoir assez de textes pour publier la revue et pour notre plus grand bonheur, nous avons reçu 100 de textes qui traitaient chacun de façon très particulière, très spécifique et intéressante, des problématiques nocturnes. Donc, nous avons dû quand même en sélectionner une trentaine avec, pour essayer de rendre compte, en fait, dans, au sein de cette revue de comment finalement les étudiants en philosophie ou autres, hein, les étudiants qui pensent, comment ils pensent la nuit. Donc on a essayé de créer un panel de toutes les possibilités. Et la première indication que je peux vous donner et qu'on a vécu, c'est que la plus grosse difficulté que nous avons rencontrée, c'est la capacité à définir la nuit dans ce qu'elle est, indépendante du jour, dans le sens où souvent, et j'ai moi-même, en essayant d'y penser, j'ai eu du mal à dépasser cette filiation toujours prégnante entre le jour et la nuit, et dans le sens où souvent nous définissons la nuit comme la négation du jour. Et donc définir la nuit dans ce qu'elle a de particulier, et comme vous le savez, les philosophes s'attachent toujours, enfin les philosophes et les étudiants en philosophie s'entraînent toujours à définir et à re-questionner les définitions. Et bien là, ça a été le problème, comment penser la nuit dans sa spécificité. Alors, pour ce faire, peut-être que je vais lire succinctement une partie de l'édito qui montre en fait l'intérêt pour la philosophie de s'intéresser à la nuit. Alors c'est finalement ce qu'on pourrait appeler le défi d'une philosophie de la nuit, qui dit que la nuit n'a que très rarement été étudiée par la philosophie, sans doute parce qu'elle représentait un cadre antithétique à la vérité, au bien ou à la sagesse. On parlait tout à l'heure de la nuit qui est associée à un milieu dangereux, un espace et une temporalité dangereuse. Eh bien, nous, en étudiant l'histoire de la philosophie, on s'est rendu compte de cela, que finalement, la nuit était liée à l'obscurité, à l'obscurantisme. Le siècle des Lumières, c'est le siècle qui chasse l'obscurantisme, qui lutte contre l'obscurantisme. Donc la lumière a été dressée comme une sorte de rempart rationnel qui est guidé par des lumières naturelles que Descartes appelait intuition, et donc qui a mené, qui a un peu balayé d'un revers de main la nuit hors du discours philosophique. Et il y a une sorte de tension aussi qu'on pourrait aborder sur le fait de penser la nuit. C'est une tension que, alors je vais souvent faire référence à des textes des étudiants, puisque c'est eux qui ont pensé, c'est eux qui ont pensé et pas moi. Donc je vais toujours parler sous l'autorité de chaque étudiant que je vais citer. Donc la première étudiante, il s'agit de Clotilde Bonardo, qui dresse une sorte de paradoxe assez assez vrai selon moi sur la formulation « pensée de la nuit ». Elle dit « Une expression telle qu'une pensée de la nuit serait un parfait oxymore, et l'alternative semble irréductible. » Donc, l'alternative, soit on respecte la spécificité de la nuit, et il n'est pas possible de penser, puisque la pensée, dans son aspect traditionnel, classique, qui émerge depuis à l'époque moderne, est considérée comme penser est synonyme de mettre en lumière, c'est-à-dire de voir, c'est-à-dire de ne pas être dans la nuit ou de chasser la nuit. Eh bien, soit on respecte la spécificité de la nuit et il n'est pas possible de penser, soit au contraire, on la pense et alors elle est perdue. Vouloir penser la nuit, n'est-ce pas en effet présupposer sa capacité à appeler la pensée dont elle ne saurait être pourvue? Donc, vous me direz, démarrer une enquête philosophique avec une telle difficulté semble être quête vaine, mais Charles-André, qui est aussi auteur dans la revue, qui a publié un article et qui nous en parlera, « La nuit vécue, une extension de ma chair », va nous donner des indices possibles d'appréhension par la pensée, peut-être une pensée plus débridée ou non pas débridé, mais moins compréhensible d'un point de vue classique, mais tout aussi intelligible. Mais moi, je voudrais, si dans le temps qui m'est laissé, traiter d'une question qui est tout autre, c'est de traiter, et ça rejoint votre propos, l'aspect politique et social de la nuit. Puisque au-delà de cette tension un peu philosophique et définitionnelle autour de la nuit et de comment la définir dans sa spécificité, c'est révélé évident que la nuit, nous la vivons. Nous dormons, nous faisons la fête, certains travaillent, beaucoup travaillent, plus qu'on ne le pense. Et donc, tout ça fournit une sorte de matière, une matière à penser. Et c'est ce que l'on recherche. Alors, je me retrouve dans mes feuilles. Donc, il y a plus ou moins trois points qui sont abordés dans la fin du dossier sur la nuit. Trois points sur la nuit, la politique et la société. En fait, cette problématique au sein de la trame de la revue s'ouvre avec une interview d'un historien de la nuit, Alain Cabantou, qui a publié un livre qui s'appelle « L'histoire de la nuit au XVIIe siècle ». Et qui, cette interview nous a, clairement effacé de nos réflexes tous les préjugés que nous avions sur la nuit. C'est-à-dire qu'il révèle, par exemple, le taux de criminalité la nuit est moins fort que le jour. Que dès lors qu'une rue, qu'une rue devient éclairée, c'est-à-dire qu'on essaie de chasser la nuit hors de cette rue, eh bien, la criminalité aussi augmente. Donc, un ensemble, et cette thèse, cette découverte, c'est même pas une thèse, c'est une découverte, c'est un fait, eh bien, il l'a découvert en allant dans les archives, donc en faisant son travail d'historien, et... Donc c'est le premier, je voudrais partir de ce constat un peu, que la criminalité augmente et que du coup le rapport de la politique et du contrôle politique relève d'une sorte d'ambiguïté. Puisque on a voulu, dans la pensée commune, et pas forcément fausse, mais on associe donc la nuit au danger. Donc on a essayé de faire évoluer, ça apparaît au XXe siècle, au XVIIe siècle, pardon, les premiers éclairages en ville, pour essayer de faire en sorte que, en fait, c'est le pouvoir politique qui essaie de prendre le pas sur la nuit, de même pratiquement prendre le contrôle de la nuit, et qui mène finalement à une sorte de... on pourrait se poser la question, une thèse. Est-ce qu'en voulant prendre le contrôle de la nuit en l'éclairant, est-ce que finalement on ne fait pas disparaître la nuit? Et j'irai même plus loin, et à la fin j'essaierai d'y répondre peut-être en retrouvant les thèses plus spécifiques. Est-ce qu'on ne perd pas le jour? Et c'est-à-dire, est-ce qu'en voulant... contrôler la nuit en lui imposant des lumières blanches, des lumières froides, des lumières où on fait intervenir le bleu plutôt que l'enrobement orangé que proposent des lumières plus classiques. Est-ce que finalement on ne brise pas l'alternance entre la nuit et le jour? Eh bien, des auteurs se sont posé la question, des étudiants se sont posé la question. Ils y ont répondu de manière assez pertinente. Trois axes de réponse. Déjà, premièrement, la réponse que dresse Elena Herrel dans son article qu'elle a intitulé d'un un titre qui vous intéressera sûrement. Ça s'appelle « Duel au néon, la guerre aux étoiles ». C'est-à-dire l'imposition, la guerre aux étoiles, c'est faire grossir nos infrastructures lumineuses. Est-ce que ce n'est pas vouloir faire la guerre aux étoiles? Et vous en parlerez beaucoup mieux que moi par la suite. Mais je vais vous lire succinctement, et avant de laisser la parole à Charles-André, le début du texte de Elena Herrel. Elle dit « Un soir de mai 2015, je rentre chez moi alors qu'il fait déjà nuit dans Paris. Je retourne à l'angle de ma rue et quelque chose me frappe dans l'atmosphère nocturne. Un je ne sais quoi a changé. La froideur ambiante n'est pas due à la température de l'air. Dehors, la lumière est blanche. Depuis quelques années, on a ainsi observé au cinéma ou dans notre quotidien un changement important de l'ambiance des villes la nuit. Los Angeles, Paris, Hong Kong, les villes passent au blanc. Dans la majeure partie de ces grandes métropoles, dites en transition écologique, les lampes à vapeur de sodium de l'éclairage public, qui se distinguent par leur couleur orangée, sont remplacées par des LED, souvent caractérisées par un blanc équilibré, ni chaud ni froid. » Donc cet article est révélateur par une enquête qu'elle fait sur le changement de lumière, de notre changement du rapport, de notre rapport à la nuit. Une nuit que le pouvoir politique tente de contrôler et qui peut-être risque de le perdre. Mais peut-être que cette thèse est trop directe et je vous laisserai m'objecter tout ce que vous voulez et je serai ravi de changer d'opinion. Dès lors qu'on en parlera. Mais peut-être qu'avant, je laisserai la parole à Charles-André, qui, lui, a une approche beaucoup plus argumentée que la mienne, déjà, et puis beaucoup plus scientifique, mais d'une science que tu vas nous expliquer.
Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Charles-André Mangelet, donc je suis doctorant à Paris. C'est ma première année de thèse en phénoménologie. Alors, je ne sais pas si mon approche sera plus argumentée, ni même si elle sera plus scientifique, mais ce sera à vous de juger. Alors, vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller directement à l'essentiel. Moi, je vais simplement essayer de vous produire, de vous donner un peu les résultats d'une phénoménologie de la nuit que j'ai essayé de faire. Alors, il y aura peut-être des passages un tout petit peu difficiles, mais je vais essayer de rendre ça le plus concret et le plus clair possible. Alors simplement, donc voilà, une phénoménologie de la nuit, on va droit dans la nuit, qu'est-ce que c'est que la nuit, comment on la vit? Alors, avant de passer à ça, il faut quand même que je vous parle une seconde du terme de phénoménologie, qui est donc la chose que je fais. Alors, le terme de phénoménologie, au fond, il a quitté un peu le domaine technique de la philosophie, et il est devenu, on le trouve en géographie, on le trouve en critique littéraire, etc., et c'est devenu un peu synonyme d'une science des apparences, ou d'une, ce que je pourrais appeler une théorie des mirages, c'est-à-dire qu'en gros, la phénoménologie va étudier non pas ce qui est vrai, non pas ce qui est le cas, mais plutôt ce qui nous apparaît subjectivement. Voilà, c'est le fait que, c'est les illusions d'optique, etc., etc. Bon, moi, je vais utiliser la phénoménologie en un sens... au sens premier, c'est-à-dire au sens où il a été lui-même créé, en fait. Et donc, par phénoménologie, j'entends une chose très précise, qui est, au fond, une sorte de nettoyage, ou une sorte de décrassage, non pas de notre rapport au monde et aux choses, mais de la manière dont on pense notre rapport aux choses. C'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre la manière dont on vit le monde, effectivement, et la manière dont on parle de ce vécu, ou la manière dont on pense ce vécu. Voilà. Et donc la phénoménologie, elle emploie toutes les ressources de la philosophie et du langage pour essayer d'être à nouveau adéquate, en gros, à notre expérience vécue fondamentale. Alors je peux vous donner un exemple, avant de faire ça pour la nuit. Je peux vous donner l'exemple du corps, par exemple. Hein. Et si je vous demande immédiatement, spontanément, comment chacun de nous pensons notre corps, on dira que le corps est un composé d'organes à notre service. C'est-à-dire que je vois mes mains, je vois mes pieds, je sais que mon nez est composé de cartilage, je sais que j'ai une langue, je sais à quoi servent tout ça, je sais qu'avec ma main, je peux prendre quelque chose, etc. etc. Donc ça, ce serait la manière immédiate dont nous pensons notre corps.
Alors qu'en réalité, originairement, le corps il n'est pas du tout présent comme ça. C'est-à-dire qu'avant qu'on sache tout ça sur notre corps, on vit notre corps, et au fond, la manière dont nous vivons ce corps, le vécu de notre corps n'est pas du tout adéquat à ça. Pourquoi ? Parce que simplement, notre corps, on ne le vit pas comme un objet. C'est-à-dire que le corps, il n'est pas en face de nous, il n'est pas donné. Autrement dit, par exemple, mon visage, avant que je sache qu'il est fait d'une bouche, d'un nez, etc., est d'abord vécu simplement comme cette chair floue du bout de mon nez qui va hanter tous les paysages qui vont succéder dans ma vie. C'est-à-dire que je sais plus ou moins qu'il y a quelque part là une sorte de chose un peu floue qui m'accompagne tout le temps. Et c'est tout, en fait. De la même manière que ma taille, moi je mesure 1m86, bon, c'est pas la grandeur objective justement que je peux mesurer sur une échelle. Ma taille, c'est d'abord la possibilité ou l'impossibilité de saisir certains objets. Et par exemple, moi, ma grande taille, elle est d'abord pour moi la menace que peuvent représenter certains plafonds trop petits, par exemple. Quand je vois le plafond et j'ai peur du plafond, c'est ça ma taille. C'est comme ça que je vis mon corps d'abord, en fait. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, en quelque sorte, on pourrait dire, pour faire très vite, que la phénoménologie permet de revenir à ce qu'on peut appeler le sens d'être, originaire et vécu de ces objets, par exemple du corps. Et donc là, il faudrait dire que le sens d'être du corps, donc la manière dont je le vis d'abord avant de le penser, c'est pas un objet là devant à portée de la main, mais c'est le sens des choses, en fait. C'est un certain sens pratique des choses pour moi. Voilà. Alors je vais faire ça pour la nuit maintenant et on va voir ce que ça donne. Alors, donc je vais essayer de revenir au sens d'être de la nuit ou à la nuit vécue. Alors à nouveau, partons du sens immédiat de la nuit. Il nous semble évident et légitime de dire que la nuit, c'est l'intervalle temporel correspondant au temps objectif de rotation de la Terre durant laquelle nous ne recevons pas la lumière du Soleil. Voilà. Quand on a dit ça, à la fois on a tout dit et on n'a rien dit. C'est ça qui est assez rigolo. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ça la nuit et c'est pas du tout ça la nuit pour nous, en fait. C'est pas comme ça qu'on la vit d'abord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend cette définition, disons, à la fois du sens commun et en même temps une définition astronomique de la nuit, on pratique une double réduction. C'est-à-dire que d'une part, on va dissoudre la nuit dans un tissu de relations. C'est-à-dire qu'on va dire que la nuit, ça n'existe pas. La nuit, c'est juste une relation réglée par des lois entre des choses. En l'occurrence, entre des astres et entre mes yeux. La nuit, c'est le fait que les astres ont à tel moment telle position et qu'elles le reprendront à intervalles réguliers. Voilà. D'autre part, on fait une autre réduction. On identifie nuit et obscurité. Ce qui revient précisément à faire de la nuit une privation de lumière. Donc, précisément, ce qui est intéressant dans les privations, c'est que, et là, en l'occurrence pour la nuit, c'est que si la nuit est une privation de lumière, alors la nuit n'est plus qu'une absence. Et effectivement, comme le disait Hugues tout à l'heure, la nuit, c'est le non-jour, en quelque sorte, c'est la non-lumière. Et quand on fait ça, on rabat mécaniquement le sens de la nuit sur le sens qui manque. C'est-à-dire qu'on dit, la nuit, c'est juste le fait de ne pas avoir de lumière, et donc le sens de la nuit, c'est le sens de la lumière, au fond. Et on dit rien de plus que ça. Voilà. Donc, en général, quand on a une définition objective de la nuit, on fait cette double réduction, et au fond, à la fin, on finit par parler des planètes, on finit par parler du jour, mais on ne parle pas de la nuit, jamais. Alors, du coup, moi, je vais essayer de voir précisément comment est-ce qu'on thématise la nuit, en fait, vraiment, comme nuit, précisément. Et donc, la première thèse phénoménologique, du coup, que j'aurais à faire sur la nuit, c'est que la nuit est à la fois un être, c'est-à-dire une chose, présente là-devant comme un objet, c'est-à-dire que le soir, je peux aller à ma fenêtre et dire « Ah, vous voyez, il fait nuit, je peux montrer la nuit, là, c'est une chose que je vois. » Et donc, la nuit, c'est un être, et c'est aussi une médiation. C'est-à-dire que, non seulement je vois la nuit, mais je vois dans la nuit aussi. C'est-à-dire que, là, au sens d'une médiation, la nuit, c'est pas un objet vu, mais c'est une manière de voir les objets. Il y a des choses qu'on voit la nuit, au fond. Voilà. Cet arbre que je vois, c'est pas la nuit, c'est un arbre que je vois dans la nuit. Et pourtant, en même temps, je vois aussi la nuit. Ça, on va y revenir. Donc, si vous voulez, on pourrait résumer ça en disant la nuit comme être et médiation, c'est comme si, au fond, la nuit était à la fois la scène et le drame qui s'y déroule, ou la caméra et l'action qu'elle filme. On pourrait encore le dire autrement, on pourrait dire qu'au fond, la nuit, c'est une fenêtre qui déboucherait à la fois sur soi, tout en faisant voir autre chose qu'elle-même, au fond. Alors, voilà, ça, c'est un petit peu compliqué, mais il faut s'accrocher un tout petit peu. Je vais essayer de creuser ça plus profondément. Donc le fait que, pour comprendre en quoi la nuit c'est à la fois un être et une médiation, il faut d'abord distinguer la nuit des ténèbres, précisément. C'est-à-dire que la nuit, c'est pas l'obscurité absolue. Pourquoi ? Parce que simplement, les nuits de clair de lune, ça existe. Et la lumière de la lune, eh ben, n'anéantit pas précisément la nuit. Donc précisément, la nuit, on voit des choses dans la nuit, en fait, sans être effectivement en plein jour. Et de même, si on parle de nuit noire, c'est bien qu'elles ne le sont pas toutes, en fait. Donc, au fond, la nuit ne se confond jamais avec ce qu'on pourrait appeler l'extinction du visible. Elle n'est pas une sorte d'épais brouillard empêchant l'expérience des choses. Au contraire, la nuit donne sur, elle est transitive, donc elle permet de voir des choses aussi. Mais, et c'est ça qui m'intéresse plus, c'est à sa manière. C'est-à-dire que la nuit, c'est une manière très précise de voir les choses, au fond. Et c'est en ça, justement, qu'elle s'oppose au jour. Parce que, au fond, le jour, au contraire de la nuit, c'est une pure médiation, c'est pas un être. Au sens où le jour est transitivité pure. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose le jour, je le vois plus le jour, je le vois tout court, en fait. Voir une chaise en plein milieu de l'après-midi, c'est voir une chaise. Point barre, au fond. Donc on pourrait dire que le jour, précisément, s'efface sur les choses dont il n'est plus que la visibilité et l'individuation même. Voir une chose le jour, c'est la voir, et point final. Donc, voilà, au fond, la thèse, justement, c'est... ma thèse, la première, c'est donc que la nuit, précisément, c'est quelque chose de très particulier qui ne s'absente pas de ce qu'elle manifeste. Contrairement à la lumière, justement, qui, ben, précisément, quand on voit une chose éclairée, le jour, on ne voit pas la lumière, mais on voit la chose, comme je l'avais dit. Donc, au fond, il faudrait dire que tout ce qui se montre dans la nuit est hanté par elle et surgit sur son fond sans s'en débarrasser. Si vous voulez, on peut le dire autrement, on peut dire que la nuit devient le verso des choses, au fond. Alors, parce que vous savez qu'une feuille de papier est composée d'un recto et d'un verso, et que pourtant, si le verso est différent du recto, le verso, ce n'est pas autre chose que le recto. C'est-à-dire qu'au fond, le verso accompagne partout le recto de la feuille, et pourtant, c'est deux choses différentes. De la même manière, la nuit accompagne toutes les choses qui s'y montrent sans être ces choses elles-mêmes. Donc, on pourrait le résumer encore plus simplement en disant simplement que voir ou percevoir dans la nuit, c'est encore voir ou percevoir la nuit elle-même. On retrouve toujours cette idée de d'être et médiation. Et maintenant, je prends un exemple, histoire que ce ne soit pas trop abstrait ce que je dis. Si, par exemple, je me promène la nuit en forêt, bon, imaginons que ma torche ou un rayon du clair de lune éclaire un arbre en face de moi. Bon, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté... une face de l'arbre contre laquelle se réfléchit la lumière sort de la nuit, sort de la pénombre. Au fond. Mais le reste de l'arbre, lui, continue à être plongé dans la pénombre ou dans l'obscurité. Et au fond, justement, ce reste de l'arbre que je ne vois pas appartient à la trame commune de pénombre qui enveloppe toutes les autres choses. C'est pour ça qu'en réalité, quand j'éclaire une partie d'un arbre, par exemple, il y a la partie éclairée et il y a tout le reste qui appartient à la nuit, comme toutes les autres choses, au fond. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est pour ça que je dis qu'effectivement la nuit est un être et une médiation, c'est-à-dire que précisément la nuit on voit un arbre qu'on éclairerait par exemple, mais le reste de cet arbre est encore dans la nuit au fond. Donc si vous voulez, et là je passe à la deuxième thèse en fond, fondamentale qui découle de la première, c'est donc que si la nuit apparaît comme si la nuit est toujours présente dans les choses qu'on y voit, elle apparaît comme une sorte de dénominateur commun, c'est-à-dire que dans toutes les choses qui se manifestent la nuit, on trouve aussi toujours la nuit, au fond. C'est un peu, si vous voulez, comme il faudrait penser un peu ça comme le modèle d'une tapisserie, c'est-à-dire que vous avez la trame de la tapisserie, vous avez les motifs, au fond, mais les motifs sont faits de la tapisserie, et pourtant ils ne sont pas cette tapisserie, au fond. Voilà. Donc la nuit, ce serait pareil, la nuit, ce serait la tapisserie, et les choses qui s'y manifestent, ce seraient précisément les choses qu'on y voit, mais précisément, la tapisserie, comme la nuit, serait toujours là, à même les choses qu'on y voit, précisément. Et donc là, c'est ce qui m'intéresse maintenant, c'est que ça a une conséquence fondamentale justement pour ce qui apparaît et ce qui se manifeste dans la nuit, pour cet arbre que je vois par exemple à la lumière de ma lampe torche. C'est du fait que précisément, la nuit ne lâche pas en quelque sorte ce qui s'y manifeste, elle va instaurer une continuité entre les choses au fond. Et c'est pourquoi, et c'est ça qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est que la nuit supprime la distance ou les distances qui isolent les choses les unes des autres. Et c'est pour ça que, moi, je dirais, au fond, si vous voulez, que la nuit instaure une sorte de dramatisation du monde. Alors, je vais expliquer pourquoi. C'est qu'au fond, puisque la nuit rassemble les choses et les trame ensemble, notre perception en est précisément modifiée. C'est-à-dire qu'on n'est plus séparé des choses par la distance nécessaire à leur vision. Au contraire, la nuit, puisque la nuit se manifeste dans toutes les choses qui s'y manifestent, précisément, eh bien, la nuit, tout se touche, en quelque sorte. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est que la nuit va changer notre rapport spéculaire, c'est-à-dire un rapport avant tout basé sur la vision et sur la lumière, et va en faire un rapport tactile, au fond. Et c'est ça qui m'intéresse fondamentalement. la preuve, et si vous voulez un exemple du fait que la nuit est une trame commune qui supprime les distances entre les choses, c'est que précisément il y a une sorte d'intimité entre les noctambules qu'on voit dans la rue, parce qu'ils ont tous un peu l'impression d'avoir la nuit en commun, en quelque sorte, la nuit en partage. Quand on sort la nuit, on est un peu comme tous les gens qui sortent la nuit, puisque on sort tous ensemble la nuit, en fait. Ce qui n'est pas le cas du jour, où le jour on ne fait que juste sortir et marcher dans la rue, en quelque sorte. Alors pourquoi est-ce que je parle précisément d'un rapport tactile qui serait instauré par la nuit ? C'est parce qu'au fond, on le sait, la grande différence entre le toucher et la vision, c'est que le toucher est le seul sens qui ne peut acquérir d'informations sur son objet que s'il se met en jeu. C'est-à-dire que moi, je ne peux jamais toucher sans être touché par ce que je touche. Pour toucher quelque chose, il faut précisément que je m'y expose, en fait. Alors que je peux très bien voir sans être vu, par exemple. Et donc, au fond, ma thèse, ce serait que puisque la nuit est à la fois un être et une médiation, et que donc elle est présente dans toutes les choses qui s'y manifestent, la nuit supprime les distances entre les choses, et donc elle fait que tout ce qui s'y présente nous touche fondamentalement. Et donc la nuit, au fond, nous cessons, on peut dire, de voir, d'entendre, et ne faisons plus que toucher. Au sens où chaque perception est justement une épreuve qui nous requiert entièrement, en quelque sorte. On pourrait même dire autrement, on pourrait dire que la nuit, nous touchons précisément tout ce que nous voyons et nous entendons. Et je pourrais finir en donnant une phrase de Diderot dans un salon, qui dit que, précisément, la nuit donne de l'horreur au bruit, ne fût-ce qu'une feuille au fond d'une forêt. Et au fond, je dirais, le fait que la nuit dramatise notre perception des choses est présente ici, et précisément montre, justement, que du fait que cette feuille et moi ayons la nuit en commun, au fond, je ne peux plus me retrancher derrière une distance qui, le jour, me séparerait de cette feuille et serait nécessaire à sa perception. Au contraire, la nuit, précisément, tout bruit que j'entends là-bas me touche, c'est-à-dire me concerne, autant que si sa source était présente, justement, ici. Et donc, précisément, la nuit, comme une médiation, et un être qui persévère à même ce qu'elle fait apparaître, fait précisément de toute perception un corps à corps, puisque nous touchons toutes les choses que nous percevons dans la nuit précisément. C'est pour ça que la nuit, voilà, on est beaucoup plus aux aguets et on peut avoir peur de ce qui s'y manifeste. Au fond. Donc je dirais, pour finir, que cette feuille, justement, qui n'est qu'une feuille le jour, est une sorte de drame la nuit. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des demandes de précision?
Je vous ai mis KO, c'est ça? C'était trop compliqué.
Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle? Là, c'est la philosophie de la nuit, mais on pourrait faire du jour, la mathématique de la nuit et du jour, avec le 0 et le 1, finalement. On est un peu dans cet ordre-là d'une certaine binéarité.
Alors, du coup, est-ce que la question s'adresse plutôt à moi ou alors, ça, ce serait un peu... Parce que, si vous voulez, toute l'affaire, c'est... Dans ce cas-là, il faudrait donner des valeurs au 0 et au 1. Ce serait un peu étrange. Je veux dire qu'effectivement, le 0, c'est rien. Et en même temps, c'est quand même quelque chose. Bon, là, je suis pas sûr. Parce que, si vous voulez... Toute mon affaire, c'était un peu de montrer que la nuit, justement, en supprimant les distances que le jour institue, oui, certes, il y a un rapport de complémentarité, il y a un lien entre les deux, mais au fond, la nuit, elle a sa valeur propre. Moi, j'ai simplement utilisé le jour parce que c'était contrastif, parce que ça permettait de mieux comprendre en quoi la nuit est la nuit, en fait. Mais au fond, la nuit, elle tient pour elle-même. Moi, je serais tenté de dire par provocation qu'on pourrait très bien faire apparaître la nuit en plein jour. À partir du moment où on est dans un régime où c'est le toucher qui vaut et qui remplace tous les autres sens, en fait. Voilà. Donc,
plus que des 0 et 1, c'était des ensembles, en fait.
Faudrait voir, oui. Faudrait voir comment on les définit, ces ensembles. Parce que...
Oui, pourquoi pas. Oui. J'ai peut-être un exemple pour parler de nuit en plein jour. C'est Michael Fessel qui le dit. Oui, oui, oui. Mais notre pouvoir de faire la nuit en plein jour, c'est-à-dire de la part d'un par exemple, un agent de police qui nous dit on a enfreint la loi et qui nous dit qu'il ferme les yeux sur l'acte que j'ai commis. Je ne commets pas d'infraction, évidemment. Mais eh bien, en disant je ferme les yeux, il est capable du coup de faire tomber la nuit en plein jour. C'est un exemple assez intéressant.
Vas-y. Mais dans l'expression fermer les yeux, historiquement, on croyait que la lumière sortait des yeux aussi et qu'elle allait palper les choses autour de nous. Donc fermer les yeux, c'était couper la lumière.
Oui, oui, oui. Couper la lumière du point, enfin, en disant que la source de la lumière, c'est l'être humain. C'est l'œil. D'accord. Oui.
Même Descartes le pense encore. Il pense aux rayons qui sortent des yeux. En fait. On a des schémas.
Mais c'est. Oui, je suis épicurien.
Oui, bah j'ai deux, trois questions ou remarques. Bah, la première, c'était sur l'idée que la nuit s'opposait un peu à la philosophie. Est-ce qu'au contraire, c'est pas un lieu qui est on ne peut plus, ou un moment, hein, on ne peut plus philosophique, quoi, même par rapport à certains philosophes, même un Socrate qui pouvait alpaguer les gens forcément après en fin de journée, et donc qui continuait les conversations tard dans la nuit, mais aussi par l'adage aussi antique que la philosophie, c'est partir du plus manifeste et le moins vrai, ou jusqu'au moins manifeste, mais le plus véritable. Est-ce que la nuit, justement, n'est pas le lieu du moins manifeste qui se force à atteindre la vérité, quoi, qui somme toute, oui, se présente pas à nous directement. Bon, après, j'avais une toute petite remarque, mais un peu idiote, sur les LED blafardes. Bon, après, c'est le spectre lumineux des LED, il est quand même très très large. On n'est pas forcément obligé d'avoir des lumières bleues, d'avoir des lumières très chaleureuses. Après, la problématique des LED, c'est surtout que, justement, son spectre lumineux est tellement large, en fait, que d'un point de vue perceptif pour nous, mais aussi surtout pour plein de bestioles, ça les amène à populer les villes, alors que jusqu'alors, on n'avait pas de problème avec avec ces animaux. Bon, ça les attire. Mais je ne sais plus trop ce que je veux dire d'autre.
Je vais peut-être prendre le temps de répondre tout de suite, comme ça je ne les oublie pas.
D'accord.
Parce que la première question, elle est très intéressante, puisque en fait, la thèse qu'on a essayé de développer, que j'ai essayé de développer avec l'équipe de la rédaction, c'est une thèse proprement attachée à la philosophie quand elle est, en ce qu'elle est définie comme cartésienne. C'est-à-dire que la métaphore de la lumière, la métaphore du regard, l'esprit associé au regard, à l'œil, l'œil et l'esprit, eh bien, c'est proprement, comment dire, le rejet du caractère nocturne. Mais tu as totalement raison, c'est que la philosophie antique, elle, et la philosophie socratique, elle débute par une sorte de retrait. C'est-à-dire que la nuit, ce qu'elle a de spécifique, c'est que c'est une pause, même dans notre société. On voit facilement que la nuit, c'est le moment donc de la pause. Et la pause, c'est la suspension, un peu, totalement, de l'activité. Et est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on peut penser, donc faire de la philosophie ? Il y a, tu parlais de Socrate, on se souvient bien du début de la République, qui commence par une catabase nocturne, où Socrate descend pour aller parler et ensuite donc débuter la République, ce qui est d'ailleurs mentionné très bien par un article de Jules Colmar, S'il est minuit dans la pensée, c'est-à-dire qu'il essaie de cerner un peu ce problème-là et de montrer que la nuit, je parlais de pause, et lui il la compare aussi au silence, et il dit toute parole suppose un silence préalable. Eh bien, c'est-à-dire que le silence est une sorte de moment de la parole. Eh bien, on pourrait dire que la nuit, et il le dit, est métaphoriquement essentielle à la pensée. Ensuite, pour la deuxième question concernant les LED, Elena Herrel, si elle avait été là, aurait répondu beaucoup plus précisément que moi. Mais l'objectif, c'était surtout de souligner la propagation progressive des lumières blanches dans les villes, et de montrer qu'elle, de son point de vue de citadine, et de son point de vue de citoyenne, de son point de vue d'être humain, eh bien, elle ressent une modification par les LED, on a bien une preuve devant moi, enfin, derrière vous. Eh bien, ça change notre rapport au monde. Ensuite, évidemment,
il peut y avoir d'autres couleurs. Sauf que peut-être que la blanche est plus utilisée en ce qu'elle révèle toutes les parties de l'obscurité de façon plus, plus nette, plus transparente même. On peut prendre l'exemple, par exemple, vous savez, les salles à laverie automatique qui sont ouvertes 24 heures sur 24, toujours blanches, où finalement, le jour et la nuit, on ne peut pas en faire la différence. Et c'est aussi une thèse qui est d'ailleurs, une description qui est d'ailleurs effective dans le livre de Michael Fessel.
Je crois qu'il y a aussi, c'est pour ça qu'on choisit les endroits, on met plutôt la lumière bleue dans les salles de bain, parce qu'en fait elle a un effet sur les individus qui est différent. C'est une lumière bleue, ça provoque, je crois, une activité cérébrale plus importante. On est plus actif sous une lumière bleue qu'une lumière jaune. Je sais pas exactement. Mais... Puis après j'avais juste une dernière question, mais c'était plus sur la manière que la nuit qu'elle avait de nous mettre en commun avec les autres, etc. Est-ce que il n'y a pas aussi dans la nuit quelque chose c'est un peu provocateur, mais qui au contraire on se retrait, il y a un retrait jouissif d'ailleurs des fois où on a l'impression effectivement qu'on est en travaillant de nuit. Je pense surtout en fait à Melville qui travaillait, le cinéaste qui travaillait de nuit et qui se placardait chez lui la nuit commençant, il calfeutrait toutes ses fenêtres pour travailler encore jusqu'à au moins midi et avoir l'impression qu'il faisait encore nuit. Est-ce qu'il y a pas là dans la nuit au contraire une manière de s'isoler et des fois même de manière un peu jouissif et perverse, avoir le plaisir d'être éveillé lorsque tout le monde dort? Il y a une sorte de pouvoir à ça, je trouve, qui est assez...
Mais je pense justement à ce sujet, dans les mots de Sartre, il y a un passage où Sartre dit qu'il travaillait toujours la nuit, en fait, parce qu'il aimait se prendre pour une vigie, en fait, précisément, à l'heure où tout le monde dort, en fait. Alors là, bon, j'aurais une première réponse qui me vient à l'esprit, c'est un peu une réponse sophistique, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que se distinguer des autres, c'est se rassembler avec d'autres, en fait. C'est-à-dire que toutes les vigies sont ensemble la nuit, en fait. Et quelque part, travailler la nuit, c'est être avec tous les autres travailleurs de la nuit, au fond. Bon, ça, ce serait la première réponse. Mais celle-là, je pense qu'elle n'est pas forcément pertinente. Après, moi, mon idée, c'était que la nuit crée une certaine forme de communauté, ça c'est sûr. Alors, je n'ai pas dit forcément avec autrui. Et justement, moi, je pense que si le cinéaste dont tu parles précisément travaille la nuit, c'est justement pour être avec ses films, en fait. Enfin, être avec son montage, être avec ses rushs, au fond. Et c'est pour ça qu'il le faisait probablement. Et donc, effectivement, après, je ne dis pas que la nuit rassemble tout le temps et tout le monde, mais que les gens qui y sont pour être ensemble, enfin, les gens, voilà. Un artiste qui travaille précisément la nuit et qui se calfeutre, crée la nuit chez lui, même en plein jour, pour appartenir, en gros, aux choses qui l'intéressent et aux affaires qui sont les siennes. Donc c'est comme ça que je répondrai. Voilà.
Oui, je suis assez d'accord que dans la philosophie, en général, le jour, c'est associé à la réflexion optique, à la connaissance, et que la nuit, ça va être l'ignorance, et précisément ce qui ne traverse pas le rayon de notre attention, etc. On parle de nuit de la théorie, mais on a quand même des tentatives, par exemple, dans le romantisme allemand, chez Novalis, il y a quand même une apologie de la nuit qui est assez fréquente. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est de la nuit, elle nous fait sortir du monopole absolu de la représentation, de la vision. Et certains philosophes l'ont perçu aussi, Lévinas ou Michel Henry, etc. Mais c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, parce que je ne sais plus son nom, monsieur, mais que vous parliez, vous disiez, oui, quand on est dans le noir et qu'il y a quelqu'un qui parle, de suite, comme si on devait se représenter en image. Mais il y a aussi de l'affect qui est parfaitement invisible. Enfin, par exemple, écouter de la musique dans le noir, c'est pas forcément se représenter des choses sur le mode justement de l'image, c'est aussi sentir et ressentir. Enfin, et je pense que la nuit, elle nous fait accéder à cette dimension pathique, qui est pas facile à... Mais je pense que c'est un bon mode d'accès et que certains philosophes, malgré tout, ont perçu, qui nous ont aidés à sortir de là. Enfin, on a des sacrées belles pistes, hein. Même Novalis, c'est quand même assez intéressant dans son opposition à l'Aufklärung, etc. Et c'est pas rien, je pense pas qu'on peut dire que toute la philosophie a oublié la nuit, hein, vraiment.
Oui, bah, c'est totalement pertinent parce que c'était notre, un peu notre, le, pas un présupposé puisqu'il s'est construit, mais c'était ce qu'on a ressenti au début, que la philosophie n'avait pas pensé la nuit. Et puis, après, ensuite, comment dire, les auteurs nous ont fait nous reprendre, finalement. Mais peut-être parler de définition ou de pensée de la nuit, ce n'est pas pertinent puisque vous avez, tu as cité des auteurs qui en ont parlé, mais c'est plutôt sur la thématique de la nuit, c'est-à-dire penser la nuit en ce qu'elle a de spécifique. Chez Merleau-Ponty, il y a la nuit, mais elle est présente dans la phénoménologie de la perception, mais elle n'est pas vraiment thématisée. Il l'utilise et par exemple, le texte de Charles-André Mangenet, eh bien, il a pour but de se concentrer uniquement sur la nuit. Mais tu as cité Novalis, et justement, il est aussi cité dans le texte de Jules Colmar, S'il est minuit en, dans la pensée, où lui, peut-être il bouscule un peu la thèse que nous avions, et nous demandions qu'à être bousculés.
Je vous propose que vous restiez là et je demande à Eric de vous rejoindre. Comme ça, on aura une vision un peu transdisciplinaire entre la philosophie et l'animation scientifique. Elle vient d'installer. Restez.
Voilà, bien. C'est dur de passer maintenant. et je vais commencer par peut-être un contraste aussi, et puis ça pourra, enfin ça va être conclusion, mais pas tout de suite. Mais la nuit, ça n'existe plus. Ben oui, voilà. Voilà cette image. Alors cette image, qu'est-ce que c'est? Bon, on reconnaît que c'est la Terre, notre monde, et on le connaît pourquoi? Ben parce que justement, on voit les continents. Et si on voit les continents, c'est parce qu'il y a de la lumière qui est là. Cette lumière, elle est produite par les villes la nuit. Enfin, les villes, les éclairages publics, les éclairages de parking, les particuliers aussi, enfin, supermarchés, enfin, les lumières en général. Et ça, pour l'astronomie, c'est dramatique. On parlait aussi des espèces animales ou végétales. Là aussi, ça crée des troubles de comportement. Et peut-être heureusement pour l'astronomie, parce que s'il n'y avait eu que les astronomes qui étaient embêtés par ça, on ne s'en préoccuperait pas. Voilà, mais tant mieux que la biologie est aussi impactée. Du coup, c'est quelque chose qui est intéressant. Et en fait, cette image-là, c'est aussi une image qui est récente. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, on n'avait pas ça. Mais il y a un siècle, on ne pouvait pas voir cette image. Puisque pour voir cette image, il faut aller dans l'espace. Et autrefois, en fait, on était sur Terre, on n'avait pas de lumière, on regardait les étoiles et on voyait des images. On parlait tout à l'heure d'imaginaire et d'absence de lumière qui crée de l'imagination. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'origine des constellations, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, quand on est sur Terre et qu'on regarde le ciel, on ne voit plus d'étoiles, donc on ne voit plus de constellations du fait de ces lumières-là. Mais on est dans l'espace, domaine où on ne pouvait pas aller avant, ben maintenant, on peut voir. Donc les continents, on peut imaginer, donc les pays, etc. Il y a eu, vous voyez, une sorte d'inversion des choses. Alors en zoomant un petit peu sur la partie que j'allais appeler Poitou-Charente, parce que j'ai pas pris l'habitude encore, Nouvelle-Aquitaine, et encore, j'ai pas l'ensemble parce que le cadrage fonctionnait pas forcément très très bien. Donc là, c'est effectivement centré plutôt sur la partie Poitou. Là, donc, c'est une carte de pollution lumineuse. C'est une carte un petit peu artificielle, en fait, qui est basée sur des observations, donc sur le terrain, et qui sont associés aux villes, et donc c'est une simulation de la qualité de ciel localement. Et si on est un petit peu bon en géographie, mais avec ça il y a des petites entités anti-sèches, eh bien on peut reconnaître en fait où sont les villes. On va reconnaître Poitiers, en se décalant on va repérer donc Niort, La Rochelle, Angoulême, Limoges, Bordeaux. Voilà, c'est-à-dire que là, effectivement, sur cette carte-là, on peut lire donc le monde, alors que autrefois on ne le pouvait pas. Et en astronomie, ben nous, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Ben on va essayer de s'éloigner de ces spots-là, les rouges, pour aller dans les régions plutôt vertes, vert foncé, voire bleu, où il n'y a pas de lumière. Parce que ces éclairages-là, eh bien, effectivement, quand on n'a jamais observé le ciel étoilé, on ne se rend pas compte de ce problème-là. Et juste pour donner un exemple, il y a quelque temps, pour des étudiants, donc on avait prévu une observation. Donc, l'observation se faisant en campagne, donc on se donne rendez-vous ici à Poitiers, à la cathédrale. Et pour patienter que tout le monde arrive, donc il y a deux, trois étudiants qui lèvent la tête vers le ciel et disent « Mais pourquoi ? pourquoi on va agencer à 30 km de Poitiers? On pourrait très bien faire l'observation ici, puisqu'on voit des étoiles. Je lui dis oui, on voit des étoiles, pas de problème. On en parle dans une demi-heure quand on sera sur le terrain. Parce qu'effectivement, pour ces personnes-là qui avaient déjà observé, on lève les yeux au ciel, on voit des étoiles, même on peut essayer de les compter, il y en a une centaine. Arrivé sur place, eh bien, ce n'est pas une centaine d'étoiles qu'on voit, c'est même on ne pourrait pas les compter. Bien souvent, quand on interroge combien y a-t-il d'étoiles la nuit, le réflexe c'est de dire qu'il y en a des millions, des milliards, mais non, pas tant que ça, il y en a à peu près 2000. Mais cette quantité de 2000, qui est à la fois une valeur, vous voyez, qui est relativement humaine, on pourrait toucher ces 2000 étoiles, ben, nous donne une sensation en fait, de choses immenses. Et donc aller sur le terrain, c'est voir toutes ces étoiles-là. Et c'est vrai que voir autant d'étoiles, c'est un contraste. On parlait tout à l'heure de contraste entre le jour et la nuit. Le jour, effectivement, c'est très riche en lumière. On est inondé de lumière. Par contre, qu'est-ce que c'est pauvre en quantité d'astres observables le jour? On ne voit que le soleil et éventuellement de temps en temps la lune. Et en étant exercé, on peut apercevoir Vénus, qui est une planète qui est très brillante, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment savoir où elle est, il faut avoir des petits trucs pour essayer de la trouver. Voilà, mis à part ça, grosso modo, on voit que le soleil. La nuit, par contre, on est dans l'obscurité, absence quasiment totale de lumière. Et par contre, là, comme je le disais, c'est 2000 étoiles, c'est quelques planètes. Et ensuite, eh bien, on va aller à la recherche de cette lumière-là. Parce que c'est vrai que là, il y a une sorte de paradoxe. En astronomie, on cherche les endroits noirs pour faire quoi? Pour voir de la lumière. Et même, on cherche à en avoir beaucoup, puisque avec nos yeux, la lumière ne rentre par que le petit trou qui s'appelle la pupille. Ça ne suffit pas. Donc, on va construire des instruments qui permettent de capter plus de lumière, les télescopes. Et lorsqu'on utilise un télescope qui a un diamètre de 20 cm de diamètre, ce miroir-là va concentrer la lumière pour que toute cette lumière-là qui arrive à la surface du miroir rentre dans nos yeux. Donc, on va s'inventer des yeux agrandis pour capter plus de lumière. Voilà. Alors ça, c'était pour l'aspect matériel. Après, ici, donc moi en tant qu'animateur, eh bien, j'ai un outil à ma disposition. C'est un planétarium. Alors un planétarium, c'est vrai qu'au niveau du nom, c'est un peu curieux parce que planétarium, c'est la salle des planètes. Et c'est parce que c'est des projections historiques, c'est-à-dire qu'autrefois, en fait, un planétarium, ça servait surtout à connaître la position des planètes les unes par rapport aux autres, puisque les planètes, ce sont des objets changeants, mouvants. Donc, voilà, à telle date, si je voulais savoir où était la planète, eh bien, j'avais un petit appareil que je faisais tourner à main et j'avais la position des planètes. Pour agrémenter la chose, on a complété par des étoiles, et à force, on a augmenté la quantité d'étoiles. Et aujourd'hui, un planétarium, c'est plus un espace où on voit finalement des étoiles que des planètes. Mais c'est un espace qui reste artificiel, dans lequel on va se passer justement de la notion de jour, on va faire l'obscurité à tout moment, on va se passer aussi du temps, c'est-à-dire qu'on va se projeter le soir, on peut accélérer le temps pour voir certains phénomènes justement qu'on aurait difficulté à voir en fait avec le temps qui s'écoulerait naturellement. Là, en accélérant le temps, on rend des phénomènes vraiment visibles, mais c'est un ciel vraiment très artificiel et qui va contraster avec le vrai ciel. Et là, c'est vrai que, alors je ne sais pas trop comment exprimer la chose, mais c'est incomparable avec un ciel étoilé qu'on trouvera justement dans ces régions noires. Ce n'est pas la quantité d'étoiles qui va changer. On voit la même chose. Mais il y a des sens qui vont s'éveiller certainement de façon positive ou négative. J'ai essayé de les exprimer. On parlait tout à l'heure de bruit. Alors le bruit la nuit, y en a beaucoup moins. L'activité baisse. Mais il y en a toujours, et des sons différents, même que je suis très, très incapable de définir, puisque qu'est-ce qu'on va entendre? Là, récemment, on a entendu un oiseau, heureusement qu'il y avait quelqu'un qui a été loin, qui m'a dit c'est un rossignol. J'aurais jamais reconnu le rossignol, mais bon, c'est un rossignol. D'autres fois, on entend des sortes d'aboiements, eh ben, c'est des chevreuils. Bon. Donc, il y a des choses qu'on va entendre la nuit, le téléphone portable qui sonne, qu'on va entendre la nuit, qu'on n'entendra pas le jour. Ensuite, par rapport à des activités qu'on fait avec des enfants, il y a aussi quelque chose qui est étonnant, c'est que d'abord les enfants, alors là après je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, donc je n'aurais pas analysé, hein, c'est loin de moi, c'est la chose, mais souvent les enfants ont peur du noir. À ma connaissance, comme ça, par mon expérience, je n'ai jamais vu un enfant qui avait peur d'observer. Alors vous allez dire, c'est peut-être parce qu'on est en groupe. Oui et non, parce qu'ils ont peur des fois en rentrant dans le planétarium, ils ont peur dans le planétarium. Dehors, je ne sais pas, il y a une sorte d'excitation ou autre chose. Pour l'instant, je n'ai pas eu de cas d'un enfant qui avait peur d'aller dehors la nuit pour observer les étoiles. Voilà, après, c'est un fait, je ne vais pas l'expliquer à chercher. Ensuite, il y a une excitation réellement. Alors, est-ce que c'est franchir une sorte d'interdit, mais il n'y a pas d'interdit, mais il y a la même excitation qu'une chose qui serait interdite de faire. Voilà, ils vont s'agiter, ils vont s'exciter un petit peu, comme si voilà, on avait le droit de faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est observer les étoiles. Bon, enfin, si. Et après, il y a quelque chose que je n'explique pas, c'est le niveau sonore justement des enfants. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de bruit la nuit et que leur niveau sonore est identique et qu'on le perçoit plus fort, ou parce qu'eux-mêmes vont se réveiller et faire un niveau sonore plus important? Ça, je ne sais pas l'analyser, parce que quand je suis en animation, si je suis concentré sur mon animation, et je ne peux pas tout analyser, mais il y a ce fait-là. Et souvent, on est obligé de dire aux enfants, chut, moins de bruit, parce qu'effectivement, au niveau d'une sorte de pollution sonore, eh ben, ça peut gêner, parce qu'on fait l'activité des fois dans un centre de loisirs, et il y a d'autres classes qui sont là, qui, eux, vont dormir. Donc voilà. Et on n'a pas besoin de parler fort la nuit, parce que justement, le moindre bruit va s'entendre. Donc il y a cette chose bizarre. Donc j'évoque ça parce qu'on a beaucoup parlé de sens dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des sens, des sensations? Eh bien, autant sortir l'été, le soir, pour observer les étoiles, c'est quelque chose de super agréable, parce que l'été, le jour, il a fait chaud, la nuit, on prend le frais, on respire, c'est bien. Oui, mais je peux vous assurer qu'on fait de l'astronomie, on le fait aussi de l'hiver. Et là, il y a un côté que je ne sais absolument pas expliquer, parce que je vous assure que d'aller dehors, quand il fait déjà 5 degrés, c'est un peu dur, mais 5 degrés, ça marche encore. 2 degrés en température extérieure, ça commence à être vraiment difficile. Et quand on atteint 0 degré, c'est très difficile. Et moins de degrés, c'est insupportable. Et pourtant, on va dehors. Voilà. Alors, l'explication aussi, c'est parce que les constellations, les étoiles ne sont pas toujours visibles au même moment de l'année. Mais même certaines choses qu'on pourrait voir l'hiver, qu'on pourrait voir éventuellement en fin de nuit l'été, bah pourtant on fait notre station l'hiver quand même, même si on va avoir un froid incroyable, parce que quand on est resté dehors pendant 2-3 heures à des températures de l'ordre de 0 degré, je peux vous assurer qu'en rentrant chez vous, vous êtes encore frigorifié et votre corps n'arrive même pas à se réchauffer. Il faut attendre 1-2 heures pour que voilà, ça y est, le corps s'est réchauffé, on peut enfin dormir. C'est-à-dire, simplement par rapport à la vie nocturne, voyez, d'un astronome, il va commencer à observer l'hiver à 21h, il va rentrer chez lui à minuit, et à 2h du matin, il ne dort pas. Alors même que ça fait 2h qu'il est chez lui. Quoi, voilà. Donc, voilà. Donc pourquoi on va dans ce froid-là, je ne sais pas trop l'expliquer, mais effectivement, il y a un plaisir quand même de voir ce ciel étoilé, d'essayer de capter ces lumières-là. Et on s'interrogeait sur ce qu'était la nuit. Ben, effectivement, on peut donner une définition mécanique, hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais définir le jour et la nuit, c'est quelque chose qui est bien plus compliqué que qu'il paraît, parce que on dit lumière, pas lumière, mais ça va même au-delà de ça, parce que pour qu'il n'y ait pas de lumière la nuit, il faut que la Terre soit opaque. Si la Terre était transparente, il y aurait de la lumière la nuit. Pour qu'il y ait du noir la nuit, il faut que la vitesse de lumière soit finie. Puisqu'on peut voir, en fait, rien ne nous arrête à voir. Donc, si toute la lumière arrivait, ben, le ciel serait lumineux par toutes les étoiles qui sont là. Il faudrait aussi un univers qui est en extension, parce que là, si cet univers n'était pas en évolution, on capterait tout et l'univers serait brillant. Donc, arriver à un noir la nuit, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est très, très difficile aussi à avoir. Et ce noir-là, on l'obtient parce que nos yeux sont habitués à voir la lumière du soleil. On parlait tout à l'heure de la lumière des LED, et puis effectivement, ces LED-là vont essayer de recréer la lumière solaire. Mais il y a d'autres lumières qui existent, que nos yeux ne sont pas adaptés à voir, mais qui sont là. Les micro-ondes, les ondes radio, les ultraviolets, les infrarouges, etc. Et si nos yeux pouvaient voir en rayon gamma, en ondes radio ou autres, le ciel ne serait pas noir la nuit, il serait lumineux. Voilà, où est le noir là-dedans? Enfin, voilà, il y a de la lumière. Et tout à l'heure, mais je suis sorti pour faire on parlait de... enfin, je ne me rappelle plus exactement la phrase, mais d'ignorance par rapport au noir, où il y a une sa symbolique de on ne connaît pas les choses avec le noir, ben c'est un peu paradoxal, parce que c'est par l'astronomie et l'étude de lumière qu'on a compris énormément de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais le aujourd'hui est en train de basculer, qu'est-ce qu'on fait en astronomie? On analyse quand même cette lumière-là qui vient du côté obscur, mais on analyse la lumière. Et tout ce qu'on sait sur les objets vient de cette lumière. Mais il nous manque un support qu'on est en train de capter, parce que cette lumière-là, ben, elle n'explique pas tout. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, dans l'univers, ben, on va reprendre les images en fait, de noir et de méconnaissance, mais il y a 95% de lumière qu'on ne connaît pas, qu'on va appeler la matière noire et l'énergie noire. Et on espère que par d'autres médias ou médiums, on va arriver à comprendre cette matière-là, par exemple les ondes gravitationnelles. Et là, ce n'est plus la lumière, c'est un autre support qui est là, avec des nouveaux capteurs qu'il va falloir inventer. Et voilà, donc il y a encore peut-être une nouvelle astronomie à créer qui commence peut-être à débuter, donc qui va se relever par autre chose que par la lumière. Voilà. Après, par rapport à l'excitation donc, des personnes voilà, qui vont découvrir un ciel étoilé, ben, c'est vrai qu'on parlait de l'excitation des enfants, vrai aussi au niveau des adultes, mais les adultes sont des fois un peu plus réservés. Mais il m'arrive effectivement que des personnes, voilà, quand ils découvrent un ciel, surtout l'hiver où les étoiles sont très lumineuses, ben, soient un peu excitées. Hein, voilà. Voilà. Donc après, il y a plein de choses à dire. Mais
ben, ça peut continuer dans le oui. débat. Mais je voulais, pour faire le lien peut-être, parce qu'on a la philosophe, astrophysicien, si j'ose dire. Enfin, c'est peut-être pas ta qualification. Non, mais... Je sais pas comment tu te qualifierais. Peu importe. Connaissance en ce domaine. Mais vous, tout à l'heure, en aparté, vous nous parliez, Chloé Lebail, que vous aviez un conseil scientifique. Est-ce que ce conseil scientifique, justement, il y a cette transdisciplinarité, elle n'est pas là, complète, mais est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez des physiciens, on a parlé de géographes, mais est-ce que vous avez des... Voilà, comment ça fonctionne, votre conseil scientifique ?
Pour l'instant, on est vraiment sur... Est-ce qu'il y a peu de chercheurs en France, qui de labos de recherche d'université, même CNRS, qui travaillent sur la nuit ? Donc pour l'instant, c'est vraiment voilà, les pionniers. Voilà, donc il y a un géographe, il y a des sociologues. Mais, Michael Fossel aussi, qui a été sollicité. Et voilà, après, voilà, j'ai envie de dire, tout est ouvert. Quoi, mais il y a peu qui s'en sont emparés.
Peut-être vous voulez répondre, parce qu'au fond, se pose la question d'une science de la nuit. J'en sais rien. Prenez le micro.
Alors j'étais tellement focus sur une question que je voulais poser que j'ai pas. Non, c'était sur un point sur la peur du noir. Mais excusez-moi. On a un article dans la revue qui traite de la peur du noir et qui dit que finalement personne n'a. C'est pas du noir qu'on a peur. Les enfants qui rentrent dans ce planétarium. N'ont pas peur du noir, ils ont peur de l'indistinction. Et la différence entre l'indistinction et le noir, c'est que peut-être que lorsqu'ils sont face à un ciel étoilé, ils sont capables de se repérer dans l'espace, dans le monde, et qu'ils ne sont pas totalement dans un monde indistinct où ils ne peuvent pas trouver leur place. C'est-à-dire que où ils ne sont pas totalement enfouis. Voilà. Autre question et remarque. Le ciel étoilé, ça a été pas mal étudié en philosophie, notamment par Kant, qui le décrivait comme le spectacle du sublime, c'est-à-dire le sublime en le distinguant du beau, le sublime qui est toujours seulement naturel, qui n'est jamais artificiel. Et donc c'est comme une évidence pour des étudiants en philosophie lorsqu'on parle de ciel étoilé de parler du sublime. C'est juste que je voulais en parler. Peut-être que vous avez une question.
Peut-être une remarque justement sur ce que vous disiez sur l'immensité du ciel, au sens où finalement il y a que 2000 étoiles au fond, et pourtant ça semble absolument extraordinaire. Moi, il y a une phrase que j'aime bien de Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion, où il dit « La nuit, au fond, c'est comme si notre corps allait jusqu'aux étoiles. » Et à ça, là, comme ça peut paraître un peu obscur de nouveau, mais ça rentre un peu dans ce que j'essayais de développer, justement sur le rapport tactile, c'est-à-dire que justement, pourquoi est-ce que les étoiles nous font cette impression, au fond, la nuit ? Bah, c'est parce qu'en fait, on est touché par elles. Précisément au sens que j'essayais de développer, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des choses qu'on fait simplement que voir, en fait. On est requis et pris par elles parce que, précisément, ça se passe la nuit et que les étoiles sont par excellence ce qu'on voit la nuit, en fait. Voilà, et j'aimais bien cette phrase, et je me disais que ça pouvait peut-être donner des pistes pour essayer de penser pourquoi est-ce que c'est si étonnant de voir les étoiles la nuit, en fait. Voilà.
Oui, parce qu'il y a un contraste entre, tu dis, toucher et avec. Il n'y a que ça, les étoiles, c'est presque le symbole de ce qui est inatteignable. Enfin, et même par rapport à la notion de sublime, alors là, je ne vais pas m'aventurer trop parce que je maîtrise moins bien, mais pendant très longtemps, en fait, le ciel au-dessus de la Lune était le monde parfait, éternel, immuable. Et voilà, peut-être le sublime est là aussi. Enfin, justement, pas touché par l'homme. Le contraste, voilà.
C'est C'est exactement ce que dit Kant, hein, c'est que le sublime nous manifeste notre propre finitude, c'est ça, et nous fait passer donc dans une autre ère, l'ère de la finitude de l'homme, face au spectacle sublime du ciel étoilé.
Voilà. Je ne sais pas, précisément sur cette question de la transdisciplinarité, qu'est-ce que l'artiste, au-delà de l'homme de théâtre que vous êtes, pourrait dire pour perturber un peu le système, je dirais, scientifique ou philosophique ? Ce qui m'intéresse, c'est la perturbation.
Moi, je crois que c'est aussi le... dans l'excitation et tout ça, c'est que c'est des moments volés la nuit. C'est que c'est des moments volés par rapport à la vie. Parce que la norme voudrait que la nuit, ça soit l'arrêt, le off, on éteint. Et ben non, nous, on se rebelle et on continue à faire des choses. Et du coup, je pense que c'est ça qui crée cette... cette excitation, peut-être. C'est-à-dire que ben, on gagne du temps. C'est du temps qu'on gagne sur la vie, et je trouve ça assez magique. Et c'est vrai que c'est... et du coup, c'est vrai qu'on y a cette notion de vivre ensemble aussi que vous évoquiez. Ben oui, on est des petits privilégiés la nuit. Parce qu'on vit quelque chose que les autres ne peuvent pas vivre. Et c'est ce qu'on retrouve dans une salle de spectacle qui est un art vivant, c'est que ben, les 200, 300 personnes qui sont dans cette salle vivent un moment que personne d'autre n'aura vécu et ne pourra jamais revivre. Donc c'est des petits moments volés comme ça à la vie. Et voilà, je ne sais pas si j'ai...
Peut-être sur la transdisciplinarité.
C'est comme vous voulez. Si la question vous intéresse, vous la prenez.
Oui,
sinon,
oui, elle nous intéresse. Elle est même fondamentale en philosophie, puisque la philosophie essaie aussi de faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'elle essaie de puiser dans toutes les... C'est pour ça qu'on parlait de spéléo tout à l'heure, de théâtre, et puis d'observation des étoiles. Eh bien, nous, on est friands de ça, d'écouter les spécialistes. Nous sommes spécialistes... comment dire, en généralité, de l'art de raisonner, mais la matière à traiter, elle provient des spécialistes scientifiques, artistiques et parfois politiques aussi.
Mais il y a une question, je crois.
Oui, c'était un peu pour rebondir sur Charles Cornet. Et voilà, c'était pour rebondir sur votre remarque sur l'aspect, je dirais même politique et social de la nuit, finalement. C'est-à-dire que si on pense le jour comme un vivre ensemble, c'est-à-dire c'est le moment où finalement tout le monde est debout et tout le monde travaille. Et alors qu'est-ce que la nuit, finalement ? C'est-à-dire, est-ce que ce moment n'est pas volé et c'est finalement, comment dire, quelque chose qui est problématique finalement, c'est-à-dire que certaines personnes le vivent et d'autres ne peuvent pas. Et pour moi, c'est vraiment lié à l'idée de travail qui fait que aujourd'hui, si on travaille le jour et on travaille par exemple le lendemain, on ne peut pas vivre la nuit. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre la nuit comme vraiment une construction sociale, parce que d'ailleurs, c'est très intéressant de se demander pourquoi on dort la nuit et pourquoi on vit le jour, alors que par exemple chez les animaux, c'est pas le cas. Et comment comprendre cette dimension finalement sociale de la nuit et en quoi elle est reliée au travail finalement. Et je trouve ça voilà une question. Voilà, dans la revue, j'ai vu qu'il y avait des articles qui étaient un peu sur ce thème-là. Et voilà, c'était une remarque. Et
tu fais référence peut-être à l'un des premiers articles qui s'appelle Le Temps Libre, non? De Mathilde Implincourt. Oui, et un ouvrage assez intéressant sur le travail de la nuit, c'est un ouvrage de Jacques Rancière qui s'appelle La nuit des prolétaires, et où il fait une étude un peu historique. Alors, je ne saurais pas dater avec rigueur à quel moment cet ouvrier, donc il raconte l'histoire d'un ouvrier qui a justement lutté contre ce rouleau compresseur qui est le travail, qui lui imposait à chaque nuit de dormir pour pouvoir récupérer ses forces et finalement être soumis à un système un système notamment capitaliste qui est productiviste, qui lui impose de dormir
la nuit. Et justement, cet ouvrier, alors j'ai oublié son nom, mais a développé toute une théorie politique pendant la nuit. Il travaillait la nuit. Et c'est un moment d'émancipation. Et cette idée est d'ailleurs traitée par Mathilda Plaincourt dans toutes ces ambiguïtés de la nuit comme temps libre, mais aussi une liberté à conquérir pour ces prolétaires, donc ouvriers. Eh bien, c'est développé, et c'est, je pense, fondamental sur la question du travail et de la nuit.
C'est juste pour rebondir un petit peu sur... on peut travailler la nuit aussi parce qu'on a de l'éclairage artificiel. Parce que pendant très très longtemps, on n'avait pas d'éclairage. Faut bien imaginer le Moyen-Âge, sombre la nuit, faut enlever les bougies, etc. Ça ne savait pas s'éclairer. Donc, travailler la nuit autrefois, mais autrefois, c'est il y a 100 ans, c'est pas possible. Là où on pouvait un petit peu manger sur la journée, c'était au moment des pleines lunes. Et justement, donc, quand on regarde les levées de lune à certains moments de l'année, je crois que c'est en jour sur deux, je ne sais plus si c'est au printemps ou en automne, mais je crois que c'est en automne, les pleines lunes, en fait, ont des horaires qui se suivent. C'est-à-dire qu'entre le jour d'avant la pleine lune, et le jour d'après, donc on a quasiment une pleine lune, mais les levées sont identiques. Ce qu'il y a, c'est comme ça, pendant presque une semaine, on va avoir des jours, en fait, qui sont rallongés, et ce qu'on va appeler la lune des moissons. Donc, ouais, ça correspondra à l'automne. Et inversement, 6 mois avant, on a la lune des chasseurs, où la lune, elle se décale énormément, d'à peu près 1h30, hein, donc on a une nuit qui arrive plus vite. Donc, mis à part ces moments où on pouvait un petit peu récupérer de la lumière, la nuit était noire, donc l'activité baisse. Après, sur pourquoi on est diurne et pas nocturne, je ne suis pas biologiste, je ne saurais pas dire, mais la vie de jour est quand même plus facile que la vie de nuit, avec le froid, etc. Et si des animaux de jour, c'est parce qu'il y a une niche qui s'est créée et une compétition entre les animaux, et ils ont trouvé un intérêt d'être la nuit, même si les conditions étaient plus dures, mais bon, voilà. À une évolution, voilà. Et après, dans les grottes, on s'aperçoit qu'il y a de la vie aussi dans les grottes. Et là, c'est un dogme qui est tombé parce que pendant très longtemps, il fallait de la lumière pour qu'il y ait de la vie, pour qu'il y ait de la photosynthèse, etc. Ben, on s'est aperçu que dans les grottes en Europe centrale et même au fond des mers, eh bien, il y a de la vie qui s'est créée à partir de molécules de soufre et tout un écosystème qui s'est créé. Donc, on n'a plus besoin de lumière pour fabriquer de la vie. Et ça, par rapport à la recherche de vie dans l'univers, c'est un impact considérable puisqu'on n'a plus besoin de lumière pour créer de la vie. Enfin, voilà. J'en profite, mais je la libère. Non, et parce que j'entends tellement de choses qu'il y a plein de stimuli qui se créent dans ma tête. Enfin, c'est sur le temps aussi, le temps, inversion du temps. Nous, on change de date là à minuit. Eh ben, en astronomie, non, on change de date à midi. On a un autre calendrier qui est à nous. En fait, on compte les jours très simplement un jour à la fois, un jour pas après l'autre. On a 2 millions et quelques jours là. Et le changement de date, en fait, se fait à midi. Et c'est très logique, et même dans le passé, dans l'Antiquité, je crois que c'est plutôt dans les calendriers juifs, c'était pareil, il y avait un changement de date à midi, parce que c'est repérable. Midi, c'est le soleil qui va être au plus haut de la journée. Minuit, c'est très dur à repérer. Donc on a notre calendrier à nous, qui est adapté en fait aux personnes qui vivent la nuit.
Ce que je disais, c'était l'idée qu'il y ait une récupération sociale de la nuit et du jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, avec les horaires, on ne travaille pas du tout. En fait, on ne travaille plus sur cette idée jour-nuit. Ça a été transformé socialement parce que c'est beaucoup plus pratique, en fait, parce que ça nous permet d'avoir des repères et voilà, ça nous permet de le vivre ensemble, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Et c'est pour ça que cette idée de nuit, qui est en fait le vivre ensemble, ça se vit le jour, et la nuit, c'est autre chose. Et là où la problématique apparaît, c'est le moment du vivre ensemble n'est limité finalement que par le travail, et que finalement tout le reste du temps se doit d'être récupéré par une idée de récupération de ce temps de travail qui est épuisant. Et donc, voilà, c'est vraiment pour ça que je dirais que vivre la nuit, c'est très intéressant. Mais c'est aussi parce que c'est une conséquence de notre fonctionnement social, en fait. Ce qui nous force finalement à étendre notre journée parce qu'elle nous empêche de faire tout ce que notre fonctionnement social nous empêche de faire tout ce qu'on voudrait faire en une journée. Et voilà, donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant.
Oui, et puis ça sonne comme une évidence, et ça, plutôt ça fait écho à l'engagement politique durant Nuit Debout. C'est-à-dire,
j'allais y venir parce qu'on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, mais très bien.
Oui, on n'a pas évoqué cette question, mais c'est totalement pertinent. C'est-à-dire que la nuit, le moment où donc, les gens peuvent se réunir, pas tous, puisqu'on a vu que beaucoup d'entre eux travaillaient, mais c'est le moment parfait, du moment parfait pour repenser le monde, la pause du monde presque, le recul qu'il faut pour réfléchir. Et c'était avant tout, alors je ne veux pas rentrer dans les détails politiques et les détails, les conversations, mais l'enjeu fondamental, c'était de s'arrêter pour penser la société qu'on voulait produire ou qu'on avait comme objectif. Donc oui, ça aurait été bête de ne pas le mentionner.
Merci pour la mention. Donc on peut en rester là peut-être, ce qui n'exclut pas que vous puissiez continuer à discuter les uns les autres. Il y a une cafétéria au-dessus. En tous les cas, merci à tous de votre participation. Merci à tous les intervenants. Tout ça est enregistré et vous aurez un lien. Voilà. Vous avez aussi le programme à venir. Et au passage, si j'ose dire, on peut se revoir pour discuter un petit peu des types de partenariats qu'on pourrait monter à l'avenir, si vous en êtes d'accord. Voilà. En tous les cas, merci.
Si l'astronomie vous intéresse, le 2 juin, il y a une grande journée astronomique ici. 2 juin, toute la journée samedi. 2 jours parce qu'il y a des...